Bienvenue dans Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je m'appelle Adrien Garcia, je suis designer et chaque semaine, je vais à la rencontre des hommes et des femmes qui font la mode. Qu'ils soient créateurs, entrepreneurs, institutionnels ou influenceurs, je les interviewe pour comprendre leur parcours, leurs problématiques et leurs stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Dans ce nouvel épisode, nous allons à la rencontre de Olivier Ribard-Cohen. Il est le fondateur de Movers. Movers est un fonds d'investissement tokenisé qui offre aux marques des industries créatives une source de smart equity, de revenus et d'influence. Dans cet épisode, Olivier revient sur son parcours. Il nous donne un aperçu de ce qu'est un fonds d'investissement et comment ça fonctionne. Il nous explique ce qu'il regarde avant d'investir dans une marque, comment il trouve de nouvelles pépites et on parle de beaucoup d'autres sujets. J'ai adoré interviewer Olivier. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Je suis aujourd'hui avec Olivier Ribard-Cohen, le fondateur de Movers. Bonjour Olivier.
Bonjour Adrien.
Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît?
Avec plaisir. Alors déjà, même en intro, je suis très content d'être là, très content et très touché de participer à ce podcast. C'est une première pour moi. J'ai commencé mon parcours de façon assez classique. J'ai fait une école de commerce à Reims. J'ai commencé en finance à New York, en M&A, donc en fusion et acquisition. Je travaillais pour d'abord la Société Générale. Et ensuite, en revenant à Paris, j'ai intégré ABN AMRO, qui est une banque hollandaise, dans une équipe canon, où on travaillait sur des problématiques d'opérations de corporate finance, donc de l'acquisition ou de cession pour des grands groupes principalement.
D'accord.
C'est là où d'ailleurs, je fais cette petite aparté, mais où j'ai eu la première coloration sectorielle, parce qu'on avait une mission pour un très grand groupe qui s'appelle LVMH, où on travaillait dans l'horlogerie pour potentiellement une acquisition pour eux qui ne s'est pas faite. Mais c'est là où j'ai découvert qu'en fait, il y avait une face un peu autre que le côté visible de l'industrie globale de la mode, mais que c'était un vrai business. Ouais. Alors, ça peut paraître un peu simpliste, mais c'est là où j'ai cette première coloration. J'ai passé quelques temps à Paris, dans cette même banque, à ABN AMRO. Donc, j'ai ensuite été transféré dans l'équipe à Londres et dans l'équipe à Dubaï. Et je suis resté en tout 6 ans dans ce groupe, dans ce métier donc de fusion et acquisition. C'était à Dubaï où j'ai vraiment eu le déclic sectoriel. Alors, j'ai une anecdote, c'est pas me lancer des fleurs, mais j'ai malheureusement une anecdote, c'est que mon accent anglais est très français et qu'à chaque fois que je parlais en anglais à mes clients de l'époque, donc plutôt des investisseurs ou des personnes du Moyen-Orient, ils me parlaient souvent de luxe, en me disant qu'ils avaient envie d'acheter du luxe, envie d'acquérir des marques de luxe. Ouais. Je trouvais ça étonnant. Ils avaient une approche, alors je voyais de 9h du matin à 10h du soir, je voyais leur approche très contrôlante des choses. Et puis le soir, quand on dînait, je voyais qu'ils voulaient faire la même chose avec du luxe. Et je me dis, mais c'est étonnant parce que le contrôle du luxe, soit t'es des grands groupes comme LVMH, Kering ou Chanel, qui ont une dynamique contrôlante, soit quand t'es un investisseur financier, je trouvais ça paradoxal. Et donc je me suis posé ces questions et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au secteur, d'un point de vue plutôt professionnel. En rentrant à Paris, c'était en 2008-2009. C'était une situation qu'on ne va pas rappeler, mais qui n'était pas dingue économiquement. J'ai décidé de tenter de changer de métier. Je faisais du conseil donc en M&A. J'avais envie de passer du côté investisseur.
Je t'arrête, mais quand tu fais du conseil en M&A,
ouais.
ça ressemble à quoi tes journées? C'est concrètement, c'est quoi? Parce que pour beaucoup de gens, c'est du chinois. M&A, déjà,
ouais,
merger and acquisition, déjà,
exactement.
C'est un gros mot énorme.
C'est vrai que alors pour moi, ça l'était au début quand j'ai commencé. Hein, je trouvais ça génial. J'avais des potes qui faisaient ça, je trouvais ça cool. Ils travaillaient très tard la nuit, ça avait l'air sympa. Et pour être très honnête, ils gagnaient beaucoup d'argent.
Ouais.
Donc, c'est comme ça qu'ils tapotent aussi. Hein,
oui, bien sûr.
Alors, c'est quoi le métier? Je vais essayer de le simplifier le plus possible. D'un côté, t'as une société, alors quel que soit le secteur. En l'occurrence, dans mon background, c'était une approche généraliste. Donc, on n'avait pas de spécialisation sectorielle. Mais t'as une société qui veut soit acheter une autre société ou vendre un bout de sa société ou se vendre elle-même. Et tu prends des conseils, donc des banques d'affaires qui viennent se positionner en conseil soit du client qui veut acheter, soit du client qui veut vendre. Et ton job, c'est de réaliser cette opération pour le compte d'une des deux sociétés. Donc très concrètement, alors après, le métier est assez... Il y a une hiérarchie très établie. Alors ça a peut-être évolué depuis, hein, Mais en tout cas, quand j'étais là, il y avait une hiérarchie très établie. Et donc, tes missions au quotidien, elles dépendaient vachement de ton âge et de ton grade et de ta carte de visite. Petite anecdote d'abord, et je le cite, mon mentor s'appelle David Nataf, qui était mon patron à Dubaï de cette équipe. Et moi, j'avais un fantasme, c'était d'avoir une carte de visite à l'époque. Et donc, le premier jour, j'arrive, je lui dis, est-ce que je peux avoir une carte de visite, s'il te plaît, David? Il me dit, pourquoi faire? Je dis, pour avoir une carte de visite.
Pour rencontrer les clients et tout. Voilà. Ouais.
Et il me dit, non. Je dis, pourquoi non? Il va falloir que j'écrive analyste dessus. Je dis, je suis analyste, j'y peux rien. C'est le grade 1. Après stagiaire, t'es analyste. Je dis, je suis analyste. Mais il me dit, c'est nul, analyste. Je dis, comment ça, c'est nul? On était une toute petite équipe, on était que deux personnes. Il me dit, je vais pas écrire analyste. Moi, je suis le patron, toi, t'es analyste, c'est nul. Alors, tu n'auras jamais de carte de visite avec moi. Je dis, mince. Alors, j'étais un peu déçu. En fait, j'ai compris derrière qu'il voulait que je me débrouille tout seul. Et que comme on était une petite équipe, à l'époque, on créait l'antenne Dubaïote pour le compte d'ABN AMRO. Donc, il a voulu que je m'émancipe un petit peu de juste ce rôle. Mais pour revenir sur ta question, le métier, c'est aussi bien de faire des valorisations d'entreprise, donc travailler beaucoup sur l'outil Excel, sur des méthodes de valorisation, que ce soit des méthodes en comparant d'autres sociétés, comparant d'autres transactions, faisant d'autres méthodes de valorisation qui peuvent s'appeler le DCF ou d'autres techniques. C'est vraiment le job étant, quand tu es mandaté par une société pour vendre, finalement d'obtenir le meilleur prix. Et quand tu es pour acheter, à l'inverse, c'est d'acheter le moins cher possible et de justifier tout en sachant qu'il y a peut-être d'autres acheteurs sur le métier. Et en fait, c'est la transition, c'est que j'étais amené à fréquenter beaucoup de fonds d'investissement en étant soit mandaté par eux, par ces fonds, ou alors en face de ces fonds, quand on était conseil. Et c'est là où ça m'a donné envie d'aller du côté investisseur, pour être très honnête, parce que je trouvais que c'était une approche plus directe. Et encore une fois, c'est pas du tout. J'ai adoré ce métier, mais par moments, comme ce sont des rythmes assez soutenus, tu fais un fichier Excel, tu n'es même pas forcément, quand tu es jeune en tout cas, pas forcément obligé de savoir quel est le client. Et des fois, on te le dit même, enfin, c'est pas qu'on te le dit pas, mais c'est pas le sujet. L'important, c'est d'être très rigoureux, de faire des beaux dossiers, de ne pas rater une virgule. Il manque un bout, enfin, moi en tout cas, il me manquait un bout. J'avais envie de me dire, pourquoi on achète vraiment cette boîte et d'être. Et c'est vrai que la hiérarchie établie dans ces banques d'affaires te laisse. Enfin, il faut être très très haut dans cette hiérarchie pour avoir ce genre d'input. J'ai voulu passer du côté investisseur, qui me paraissait un métier plus risqué certainement, parce que là, tu prends un risque d'investir, et c'est ça que je trouvais aussi assez excitant, contrairement à juste être techniquement être conseil ou. Ton job, c'est d'être le meilleur conseil possible. Mais là, la prise de risque m'excitait beaucoup. Et c'est là où j'ai tenté, quand je suis rentré donc autour de 2008, dans cette situation économique un petit peu particulière, de passer du côté investisseur. Et j'avais, idéalement, j'essayais de trouver un deal où je pouvais passer du côté investisseur avec une coloration sectorielle. J'avais eu donc cette anecdote de langue française, enfin langue anglaise avec l'accent français, qui me disait le luxe. Je m'étais donc simplement renseigné, et c'est ça qui m'a fait dire il n'y a pas une façon de cumuler les deux mandats. Et j'ai eu de la chance. J'ai réussi à trouver une société qui cumulait ces deux approches, qui cumulait d'abord une connaissance sectorielle très fine, parce que c'est une société qui a accompagné ce secteur depuis 25 ans, dans laquelle j'ai évolué, qui m'a vraiment beaucoup appris, et qui lançait une approche d'investissement. L'idée toute simple était de faire un fonds d'investissement dans le secteur du luxe.
D'accord.
Voilà, voilà d'où je viens un petit peu. En résumé, j'ai école de commerce, M&A, j'ai eu la chance de voyager beaucoup et de travailler. C'était un rêve d'enfant en plus d'essayer de bosser un peu à l'étranger, donc c'était canon. Et puis, pivot vers le métier d'investisseur sectoriel, uniquement donc dans ces industries du luxe, qui est un mot que je vais peut-être à partir de maintenant arrêter de prononcer, dans lequel j'ai du mal à... c'est plus qu'on fait, le mot luxe a bougé, je trouve, depuis le moment.
Ça a perdu un peu de son contenant.
On parle d'industrie créative.
L'industrie créative. Justement, la mode, le lifestyle, les industries créatives, c'était quelque chose qui te touchait depuis que t'étais gamin, le vêtement, le...
Ouais.
Les accessoires ou pas du tout?
Oui, alors je vais encore une fois raconter une anecdote, j'ai plein d'anecdotes.
C'est vachement bien, c'est imagé.
Ma mère, qui est quelqu'un de très important pour moi, comme beaucoup, hein, mais particulièrement. D'ailleurs, je l'ai pas appelée ce matin et généralement, je l'appelle tous les matins. D'accord. Donc, je manque à tous mes devoirs.
Bah, on peut l'appeler si tu veux.
Elle serait touchée. M'a emmené avec elle dans le sentier, parce qu'elle avait des magasins de vêtements, de mode pour femmes. Et j'adorais. Alors, elle me faisait de temps en temps sécher les cours le lundi, parce que c'était le lundi où elle allait faire. Et j'adorais aller avec elle et je portais les sacs. En fait, c'était l'époque où il y avait encore le sentier. Ça me revient souvent en tête parce que elle faisait du shopping pour ses clientes. Donc, c'était un modèle wholesale classique. Elle avait des multimarques féminins. Et elle allait donc acheter dans le sentier auprès de faiseurs, de fabricants. Et j'étais bluffé par ma mère qui me disait, tu vois, cette robe, je vais l'acheter pour Madame X et ça pour Madame Y. Je me disais, mais comment elle fait? Elle avait 6 boutiques. Comment elle fait pour savoir tout ça? Et moi, je portais les sacs. Et c'était des sacs de merde qui sectionnaient les mains, en fait. Et ça m'a marqué enfant d'avoir cette section dans les doigts parce qu'il fallait en porter beaucoup. Et après, on mettait tout dans la voiture, dans son petit parking, boulevard Sébastopol. Donc ça, c'est... Enfin, voilà. Alors, ma mère était une entrepreneuse, si on veut. Elle a toujours eu ça. Et dans le secteur, effectivement, du textile, de la mode, bon, te dire que ça m'a... elle a commencé par de l'enfant. Alors, c'était marrant, parce qu'elle a peut-être fait ça pour nous, d'ailleurs, avec ma petite sœur. Mais quand on était jeune, elle avait des multimarques d'enfants. Et puis après, quand on était plus âgé, elle a switché vers la femme. Donc, jeune, on était habillés grâce à elle, et plus tard moins parce que c'était féminin, et donc c'est j'ai baigné dans cette industrie tout jeune. Après, te dire que c'est ça qui m'a donné envie, bah déjà de faire de la finance, ça bof, et de switcher, peut-être en tout cas j'ai ces souvenirs d'enfance, oui, de tissus, de textiles. Bah, ma grand-mère était couturière, donc ouais, je rentrais chez, enfin tous les soirs en sortie d'école, j'avais la chance de vivre la maison d'à côté de chez mes grands-parents, et donc de rentrer chez eux tous les fins d'après-midi, et ma grand-mère était en train de coudre toute sa vie, donc je l'ai vu coudre, les odeurs, je les connais, j'ai vu des machines toute ma vie, il y avait des épingles par terre, on nous dit attention, marche pas sur le tapis parce que tu vas te mettre une épingle dans le pied, donc ouais, ça a toujours été là. Après, j'ai pas eu d'expérience terrain moi propre. C'est juste une culture qui s'est mise un peu quelque part en moi, mais qui fait que j'ai une sensibilité. C'est d'ailleurs ce qui nous anime dans l'équipe. Hein. On essaye toujours de faire des choses qu'on comprend, en tout cas qu'on peut comprendre. Ouais. Et cette industrie, que ce soit la mode, la beauté, enfin. Cette industrie créative, ces marques consumer, on les comprend peut-être un peu plus que des sujets tech ou des sujets plus généralistes dans d'autres secteurs.
Revenons sur ton expérience en fonds d'investissement. Déjà, est-ce que tu peux me dire c'est quoi un fonds d'investissement, comment ça fonctionne et c'est quoi les tenants et les aboutissants?
Alors d'ailleurs, c'est une très bonne question parce que c'était pas un fonds. Ouais. Enfin, un fonds, c'est une structure juridique, c'est une structuration même juridique. À l'époque, la société qui m'avait employé, c'était un investisseur. Donc, le métier, c'est de prendre un risque et de prendre un investissement et donc de devenir actionnaire financier d'une société en lui donnant de l'argent contre des actions. Ouais. Tu deviens donc partenaire financier, minoritaire, majoritaire. Il y a plein de différences. Et donc, c'est plus l'approche investisseur. Après, tu peux être un investisseur business angel, donc un mec perso qui a gagné de l'argent, et qui décide de l'investir tout seul. Donc ça fait partie, mais il n'est pas structuré comme un fonds. Après, tu as des family office qui sont donc une famille ou plusieurs familles qui décident ensemble ou seuls d'investir. Et puis, tu as les fonds. Et le mécanisme de fonds, c'est que tu as des investisseurs, on appelle ça des LPs, des limited partners, qui te donnent un mandat pour gérer leur argent. Donc, tu prends une grande poche. Tu dis, moi, j'ai besoin de 100 pour faire ma stratégie. Donc, tu lèves un fonds d'investissement de 100. Ce 100, tu les investis dans X produits, dans X marques, X sociétés, en espérant que ces sociétés, il y en a qui fonctionneront très, très bien, d'autres qui, malheureusement, sont peut-être un peu plus dans le dur et que la moyenne de tout ça fera de la valeur. Et ensuite, tu rends l'argent à tes investisseurs et tu en gardes une partie. Et ça, c'est un fonds. Alors, ça. Il y a une dynamique assez intéressante à noter aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de très très grosses levées de fonds. Il y a eu une concentration sur des gros acteurs et donc des fonds d'investissement très matures qui lèvent d'énormes poches. et qui font ce métier. Mais il y a aussi plein d'autres façons d'investir. Quand j'ai rejoint ce monde, moi, ça restait un caractère hyper familial. Donc, c'était plutôt un multi-family office. Donc, c'était quatre familles qui avaient réussi à faire une première réussite entrepreneuriale, donc qui avaient gagné de l'argent et qui nous avaient effectivement donné un mandat sur un montant X pour l'investir dans cette industrie.
D'accord. Voilà.
Donc, ça a été ça ma première expérience.
Ouais.
C'était pas dans un fonds d'investissement classique, structuré tel qu'un fonds, mais plus sur un multi-family office. Mmh. Et donc, il y avait un caractère que j'adore toujours et qui anime notre aventure également, c'est ce côté entrepreneur familial où la prise de risque, elle est faite par ceux qui ont l'argent. C'est leur argent et donc ils décident de faire ou pas faire. Mmh. Contrairement, même si l'argent est aligné, parce qu'on en il y a une partage de plus-value à terme, mais dans un fonds d'investissement où c'est de l'argent de tiers. Mmh.
Ouais, c'est pas ton argent quand tu investis.
Quoi. Bah, ça l'est également parce que
t'es commissionné dessus et tu.
Puis t'es obligé d'investir aussi. C'est-à-dire que pour avoir les fameuses actions qu'on appelle de carried interest, donc les actions, les fameux. La règle c'est 80-20%.
Ouais.
80-20, donc en général. Hein, donc tu lèves 100, si le 100 devient 1000, il y a eu 900 de plus-value, les 900 tu les splits en 80-20, les 80 retournent aux fameux limited partners et les 20 aux GP, qui sont l'équipe de gestion. Mais et pour avoir ça, tu es obligé d'investir un petit peu.
Oui.
Donc ça reste ton argent, mais c'est le bon. Quand tu as des fonds qui font 4 milliards, par exemple, l'équipe de gestion met pas un milliard sur la table.
Justement, à cette période-là, le quotidien, c'est quoi? C'est de scanner le marché pour trouver des boîtes qui sont en demande de fonds.
Exactement. Je vais ne parler que de mon expérience, mais on avait nous. Déjà, c'est un peu plus simple. Enfin, moi, je trouve ça plus simple, mais ça veut pas dire que c'est facile à faire. Mais c'est plus identifiable. C'est quand tu as une coloration sectorielle, tu te dis, je cherche des marques qui font ça, ce secteur-là. Et après, tu peux aussi cumuler cette approche sectorielle avec des critères plus de taille, de maturité de société, etc. Donc oui, une fois que tu as défini en amont ta stratégie d'investissement à laquelle tu crois, tu cherches effectivement à identifier des marques. Et le job, c'est de les rencontrer. Alors, il y a mille façons de les rencontrer. Et encore une fois, aujourd'hui, en 2019, ça a vachement bougé depuis 3, 4, 5 dernières années. Il y a énormément de façons de rencontrer des projets, je trouve. Quand tu vois des trucs canons comme Station F, il y a plein de gens qui vont dire qu'il y a des côtés positifs et négatifs, mais il y a un vivier d'entrepreneurs qui est plus identifié. Donc, tu peux aller faire des conférences. J'ai pas de carte de visite parce que du coup, je suis déformé à cause de l'autre. Tu peux jeter des cartes de visite et dire, participe à des events, des conférences et fabriquer un deal flow. La clé, et c'est d'ailleurs comme ça que c'est le point central de la création de ma boîte, c'est le deal flow. Quand tu es un investisseur, et je vais reparler de ma mère. Il faut vraiment qu'on l'appelle pour qu'elle nous écoute parce que ça lui ferait peut-être plaisir. Mais quand je lui raconte, je lui dis, maman, si je dois arroser le jardin, vaut mieux que je me mette à la base du tuyau. Et puis, comme ça, je ferai un geste. Alors là, on nous verra pas, mais je fais un geste plus large et j'arroserai plus vite. Comme je suis un peu feignant, ça ira plus vite. Que me mettre au bout du tuyau, je vais finir par arroser, mais ça va être 3 heures à faire le jardin. Le deal flow, c'est pareil. Plus tu te mets en amont du tuyau, des opportunités, mieux c'est, parce qu'en fait, tu deviens propriétaire un peu de ton deal flow et t'es en amont des deals. Moi, là, je vais vous parler d'une boîte qui vient de faire un deal avec un très gros, qui s'appelle Sillage, que je trouve canon. Je l'ai rencontré il y a quelques mois, mais en fait, un peu trop tard. Parce que je pense qu'il était déjà, il a pas osé me le dire, parce que c'est un garçon très élégant, mais il était déjà en discussion.
C'est du parfum, Sillage, ça.
Tout à fait, ouais. C'était un peu tard, donc tu rates. Et en fait, ton quotidien et mon angoisse quand j'étais dans cette structure d'investissement, c'est que j'avais un fichier Excel avec toutes les listes de marques ou d'entrepreneurs que je voulais ou que j'avais rencontrés. Il fallait que ça rentre pile poil au bon moment, au bon endroit. Donc, si on dit qu'on fait du secteur, alors déjà, nous, on enlevait tous les autres, bien évidemment, mais je fais que de la mode. Donc, je vais regarder que des deals de mode. Et puis, la gestion de mon argent, de l'argent qu'on m'a donné à investir, fait que je dois investir des tickets entre 500 000 et 1 million d'euros, par exemple. Donc, toutes les mecs qui veulent 100 000, je peux pas leur faire. Donc, je suis trop tôt. Donc, je les mettais dans un petit fichier Excel et je dis, rappelez dans 6 mois. Avec dans ma tête très vite, je me dis, j'espère que personne ne leur rappellera avant moi.
Ouais, c'est ça, parce qu'il y a une concurrence il y a une petite concurrence, quand même, en face.
Oui. Alors, en plus, quand t'es, alors nous, notre ambition à partir de maintenant est d'ouvrir, d'aller chercher un peu plus que la France. Mais en plus, quand t'es en France et que t'es sectoriel, là, ça limite quand même. Et oui, il y a une concurrence accrue sur les dossiers d'investissement. Donc ton métier, c'est d'abord effectivement de sourcer. Alors il y a plein de techniques. Tu peux faire des conférences, comme j'évoquais. Tu peux être copain avec les banques d'affaires qui donc t'abreuvent de dossiers. Tu peux être copain avec des avocats, avec il y a plein de façons. Nous, on a une approche très proactive. C'est que, encore une fois, comme on en parlera tout à l'heure, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la plateforme de marque. Avant la performance financière, avant la maturité, etc. Nous, ce qu'on aime, sont les marques. Donc, on les screen très tôt. Et on va les chercher. On va leur parler en disant, tu sais, t'as peut-être pas besoin d'un mois tout de suite, mais juste, je veux te rencontrer. Donc, c'est aussi, alors, c'est très besogneux, mais c'est sympa aussi de le faire comme ça. Mais donc, il y a plein d'approches. Mais évidemment, l'un des gros chantiers, l'une des grosses parties du métier d'investisseur, c'est d'avoir accès à du deal flow et de se fabriquer un deal flow. Une fois que tu as le deal flow et que tu as identifié une société, un entrepreneur, une équipe dans laquelle tu as envie d'investir, tu aimerais investir, bah, tu rentres en relation avec lui. Alors, il y a encore une fois, je ne sais pas quel degré tu souhaites apporter, mais pour simplifier, tu as une première rencontre, qu'elle soit directement avec le management ou avec le conseil, le fameux banquier d'affaires de tout à l'heure, qui s'opère. Il te présente le dossier, tu poses quelques questions, tu fais en interne, toi, tes petites analyses, tu regardes s'il y a vraiment du potentiel, si le business plan, donc si les hypothèses font du sens et si elles sont solides, et puis si ça colle avec ta stratégie d'investissement. Si c'est le cas, eh ben tu, encore une fois, de façon très schématique, tu émets une offre, une première offre, ce qui s'appelle souvent une LOI, une lettre d'intention, qui n'est pas forcément engageante, mais qui définit les contours d'une opération potentielle. Et si la marque en face, si l'entrepreneur accepte tes conditions préliminaires, tout le monde la signe, et là tu rentres dans une phase d'exclusivité plus intime, où tu vas un peu plus loin dans l'analyse du dossier, tu commences à structurer l'opération pour arriver à une confirmation de ton offre. C'est un peu comme si tu voulais acheter un appartement et qu'après il faut que tu trouves ton financement, bah tu fais une offre et puis après tu as quelques mois pour finaliser l'opération. C'est à peu près pareil. Et si tu arrives à lever finalement tous les sujets, si tu arrives à valider l'ensemble des détails de l'opération avec la société et ses conseils, eh ben oui, tu investis, tu mets du capital dans la société et tu deviens actionnaire. Puis la roue, alors ma zone de frustration quand j'étais investisseur financier aux premières expériences, c'est que très honnêtement, et on va être un peu noir et blanc, mais même si c'est jamais aussi simple, une fois que tu as fini un dossier, tu penses qu'au suivant. Donc il y avait cette expression de smart money ou d'argent intelligent, où l'équipe derrière moi, le fondateur de cette structure, tentait de m'inculquer cette notion, on est de l'argent intelligent parce qu'on est sectoriel. J'avais honnêtement beaucoup, beaucoup de mal à comprendre ce que ça voulait dire. Parce que, en fait, je pense que l'argent, c'est pas très intelligent, c'est de l'argent, quoi, c'est une ressource. C'est les équipes qui le rendront intelligente derrière. Et en fait, quand t'as un modèle économique d'investisseur, bah, tu penses au deal. Donc, tu fais un deal, puis une fois que tu l'as fait, tu fais celui d'après, etc., etc.
Il n'y a pas forcément de suivi.
Bah en fait, c'est juste qu'en l'occurrence, si tu as une équipe de 250 personnes, tu peux apporter des... Et ça a beaucoup évolué parce qu'il y a beaucoup de dynamiques qui se sont un peu plus structurées comme ça. Mais en l'occurrence, nous, on était une petite équipe. Bah, je pouvais... Enfin, même si tu peux faire ce que tu veux, mais tu peux ne jamais dormir. À un moment, il n'y a pas de temps, quoi. Ça prend du temps de faire une opération. Et donc, après, il y a un problème de compétences. Moi, je vais être un peu dur avec moi-même, mais je ne sais rien faire. Peut-être que je comprends certains trucs, mais tu me dis, la marque en face me dit, ah bah tiens, j'ai besoin de revoir mon accord de distribution en Chine. Je dis, bah très bien, bah va voir un avocat. Mais voilà. Ou j'ai envie de trouver la bonne agence pour me faire une plateforme e-commerce. Ok. Bah va voir une agence.
Rencontre-les tous. Et
voilà.
Puis
tu peux être bienveillant, tu peux avoir des idées. Mais tu ne sais pas faire. Mm-hmm. Et c'est ça que je trouvais bizarre dans ce mot argent intelligent. Pour moi, l'intelligence, c'est aussi... Elle peut s'exprimer dans plein de façons, mais il y avait ce côté... En fait, je chantais cette frustration du côté de l'entrepreneur où quand il y a un process de séduction, hein, quand tu es un investisseur, où tu lui racontes des belles histoires, que tu vas être de l'argent intelligent, que tu vas lui apporter de la valeur ajoutée parce que tu es sectoriel, parce que... Et en fait, c'était un peu déceptif parce qu'une fois que tu avais fait le deal...
Il n'y a plus personne.
Tu pensais le prochain, quoi. C'est juste que, voilà.
Ouais, la construction du fonds d'investissement est telle que il y a pas. Voilà. Tu peux vraiment faire de l'argent intelligent, quoi.
Exactement. Le pendant pourrait être de dire, et on va le nommer avec enfin, avec tout le respect et toute l'admiration que j'ai pour tout ce qu'il a pu faire, mais Bernard Arnault, c'est, tu pourrais dire que c'est de l'argent intelligent. Si évidemment Bernard Arnault, il te met de l'argent dans ta boîte, tu peux te dire qu'il y a, alors, il y a un prix à payer.
Ouais.
C'est que souvent, il va prendre tout, le contrôle. Il va, et quand t'es tôt dans une boîte, ce qui est notre cas, le fameux tuyau là pour arroser le jardin, prendre 100% ou prendre une participation majoritaire dans une boîte très jeune est également un risque.
Bah ouais.
Donc du coup, l'équation est pas simple à résoudre.
Mm-hmm. Très bien.
Et c'est ça qui m'a moi poussé à entreprendre. C'est que à un moment, pour plein de raisons, mais j'ai dit bon, allez vas-y.
Ouais, raconte-nous ce moment de prise de décision. Tu t'es dit ok, bah c'est bon, là j'en ai marre. Il faut que je fasse les choses différemment.
Alors, il y a eu plein de petits bouts, mais le gros truc, je suis devenu papa de deux enfants d'un coup.
Pas mal.
Et une troisième depuis. Et un soir, je rentrais très tard. Je les voyais pas beaucoup et je trouvais ça pas très cool. Et puis, on était en train de tenter de lever un fonds de 100 millions de dollars. Et on n'y arrivait pas bien. On avait cette première famille, mais qui n'avait pas suffisamment mis d'argent dans la première poche pour faire une vraie stratégie. Et donc, on s'est dit, mais simplement, on va lever un fonds. Et c'était dur. Moi, je trouve ça dur. Lever un fonds, c'est dur. Ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Et mon employeur avait tout le setup pour y arriver, mais c'était dur.
Tu peux nous expliquer rapidement c'est quoi le processus pour lever un fonds ?
Déjà, il y a une partie en chambre où tu structures, où là, il faut avoir des agréments, tout ça coûte un peu cher. Alors, si tu es basé en France, c'est avec l'AMF, donc tu dois avoir une structure suffisamment stable et solide pour tenter ce genre d'aventure. Et puis après, il faut solliciter les investisseurs qui peuvent être des investisseurs privés ou institutionnels et les pitcher. Et ça prend du temps.
Il faut tous les rencontrer et voilà. leur vendre
exactement. Et puis souvent, il faut un track record. Un track record, c'est j'ai déjà fait deux bons coups, donc si tu m'en donnes plus, j'en ferai encore plus. Et nous, le problème, c'est qu'on était ce qu'on appelle un first time fund. Donc une première fois.
Sans track record.
Voilà, et comme toute première fois, alors ils avaient un track record de conseil, mais pas d'investisseur. Donc il y avait ça bloquait. Et un soir pas comme un autre. Et là j'ai parlé de ma mère, de ma grand-mère, qui sont deux femmes hyper importantes. Et maintenant j'ai mon épouse qui est rentrée dans la danse. Un soir je suis rentré un peu tard, j'étais très triste. J'ai regardé mes deux petits bouts dans leur lit dormir. Je dis, putain, d'un côté, je les vois pas, beaucoup, ou pas assez. On n'arrive pas, et j'étais pas bien. Et ma femme, qui m'a un peu remué, elle m'a dit, tu sais, quand t'es pas content, tu changes un truc, hein. Et je pouvais pas changer mes enfants, ni ma femme. Donc, j'ai changé de travail, et le lendemain matin, dans la nuit, pour être très honnête, je travaille qu'avec des feuilles blanches, donc je suis vieux, hein, mais je prends des feuilles blanches et j'écris. Et donc, j'ai pris des feuilles blanches, j'ai passé une nuit blanche à écrire des trucs. Ça s'est traduit le matin par 8 feuilles et quasiment 8 phrases que j'ai donc soumis encore une fois à mon épouse, qui a une capacité, elle est extraordinaire. Moi, j'écris mal et moche. Elle écrit bien et beau. Donc, elle m'a dit, c'est pas mal. Pour une fois, elle m'a dit, c'est pas mal. Alors que souvent, elle me dit, c'est nul ce que t'as fait. Non, il manque un bout. Là, elle m'a dit, c'est pas con. Et donc, j'ai dit, bon, j'étais sûr. Laisse-moi les 8 feuilles. Et le soir, elle est rentrée avec un truc bindé, un document relié, imprimé, joli et tout, avec des belles couleurs, avec un logo, avec tout. Elle me dit, voilà, c'est ça ta boîte. Ça y est, c'est fait. Pitch-le. Et les hasards de la vie, c'est que le lendemain matin, j'avais un petit déjeuner avec un mec qui avait beaucoup d'argent. Et j'ai pris ces 8 slides et je l'ai pitché. Et au bout de 5 minutes, il s'est levé, il m'a serré la main, il dit, c'est bon. Je dis, c'est-à-dire, c'est bon. Il me dit, c'est bon, je t'accompagne, on y va. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et j'ai posé ma démission à ce moment-là. Et donc, j'ai créé ma boîte avec un peu tout ce qu'on vient de se dire. Alors, il y avait un bout d'argent intelligent derrière, dans ma tête. Il y avait une coloration sectorielle. Il y avait une transformation du secteur violente qui commençait vraiment à exister.
C'est en quelle année ?
C'est 2015.
D'accord. Donc, c'est assez récent. Hein.
Ouais, 2014-2015. J'ai créé ma boîte le 29 janvier 2015, très précisément.
D'accord.
Et donc, c'était un petit peu en âme. Enfin, c'était 6 mois avant, quoi. Ouais. Le temps de faire un peu tout ça.
D'accord. Et il y avait quoi, alors, dans ces slides? C'était quoi le... Enfin, tu viens de nous le dire, mais grosso modo, c'était quoi les...
Il y avait
l'ADN
en fait
du truc.
il y avait j'acknowledge, je rendais évident certaines choses. C'était j'ai pas de track record. Alors c'était pas écrit comme ça, mais j'ai pas de track record. En fait, je peux vous, et donc je parlais à des investisseurs potentiels. Mmh. Je veux dire, ça fait 2 ans que j'essaie de vous solliciter, de vous dire, mais vous inquiétez pas, je vais en avoir du track record, je vais en fabriquer, donnez-moi de l'argent et j'en aurai. Ça marchait pas. Je dis, écoutez, je vais pas vous demander d'argent. L'argent intelligent, faut déjà être intelligent. Donc, pour être intelligent, moi, je sais pas tout faire, je vais recruter une équipe d'intelligents. Et je vais recruter des gens avec des compétences concrètes, réelles, opérationnelles, qu'on va mettre à disposition de jeunes marques. Et une fois qu'on fera ça, bah on apprendra en faisant des choses. Donc, le fameux site internet, le fameux accord de distribution, écrire une newsletter, enfin, des choses très concrètes, très quotidiennes. Mmh. Et on va le proposer à un secteur. On va faire ça pour des marques, on va les accompagner opérationnellement.
Tu t'es inspiré de quelqu'un d'autre qui faisait ça ?
Ouais, de 2 boîtes. My Major Company.
Mmh. Oui.
Qui est une boîte de, qui est le, je pense, le pionnier de crowdfunding à caractère musical. Mmh.
Mais c'est vieux déjà, non?
Ouais, mais c'est des potes. Et j'ai trouvé génial. Et à un moment, ils avaient un problème de modèle économique. Mmh. Et ils ont réussi à le résoudre, justement, en ayant cette approche. Je veux dire, bah, d'un côté, on a tous les porteurs de projets musicaux qui nous balancent leurs projets sur la plateforme MyMajor. Et nous, on passe aussi autant de temps avec le mec qui chante super bien et la casserole. Parce qu'on n'a pas de filtre. Et à un moment, ils se sont dit, bah, on a les métriques pour voir ceux qui chantent bien et ceux qui ont une adhérence avec le public en face. Bon, on va les mettre dans un label indépendant et là, on va leur apporter de la valeur en leur donnant des solutions. Et moi, j'avais trouvé ça génial. C'est simple, hein, mais hop. Et la deuxième source d'inspiration, elle est globale, c'était les accélérateurs de croissance dans la tech. À l'époque en Californie peut-être, mais il y en avait aussi déjà qui s'installent en France. Un mec comme Xavier Niel, pour moi, sa dynamique, elle est là. Il a une école et puis il a un incubateur, il a un fonds et alors, tout est à lui. C'est plus pratique. Moi, j'étais pas Xavier Niel. Et d'ailleurs, je pense que dans une des slides, il y avait un peu. Enfin, en tout cas, je raconte cette histoire. Je suis pas Xavier Niel, mais j'ai la même ambition. En fait, j'ai la même vision. C'est que les entrepreneurs, ils ont besoin d'accompagnement et d'argent, et pas d'argent et en fait d'accompagnement à pas, parce que finalement, ça coince dans le modèle économique. Donc, chers investisseurs, c'est ce que j'ai donc proposé à ce monsieur au petit déjeuner. En fait, j'ai pas besoin de votre argent dans un fonds. J'ai juste besoin que vous soyez là, prêt au cas où. Et pour ça, vous devenez actionnaire de ma boîte. Je vais accompagner des boîtes, concrètement. Je vais apprendre les choses grâce à ça. On va faire des choses. Le mot faire était hyper important dans ces quelques slides. C'est que je voulais faire des choses pour comprendre, pour faire des erreurs, pour voir ce qui marchait bien d'un côté, pour tenter de l'appliquer ailleurs. Et en faisant ça, on va détecter des belles boîtes. Et en fait, on va être au contact. Et c'était un autre constat froid que je faisais quand j'étais juste investisseur. C'est qu'avant de faire un chèque, et encore une fois, je schématise, tu rencontres 3 fois le mec. 3 fois, c'est un beauty contest. Ils sont coachés par une banque d'affaires ou parce qu'ils sont bons. Et tu vois pas qui sont les gens en trois rendez-vous.
C'est comme sur un entretien de recrutement. Tant que t'as pas bossé avec le mec,
tu sais
pas.
Donc là, il y a la période d'essai.
Ouais, il y a la période d'essai.
Mais dans un fonds d'investissement, quand t'investis, il n'y a pas de période d'essai.
Ouais, une fois que t'as fait ton virement.
T'as fait ton chèque, chèque, quoi.
Ouais.
Et c'était une angoisse. Ça me réveillait la nuit. Quand t'es dans un process, tu te dis, putain, il y a peut-être des trucs que j'ai pas vus. Est-ce qu'il est vraiment bon, le mec? Et en fait, en créant cette approche avec ces fameuses feuilles blanches, je me suis dit, c'est très simple. Et j'avais trouvé une stat. Alors, je vais être très honnête, je me rappelle plus des chiffres. Mais ça venait de la Silicon Valley, encore une fois. Avant de connaître un entrepreneur, il faut travailler en moyenne 17 heures avec lui. Et avant de faire un chèque, tu travailles 7 heures avec lui, par exemple. En tout cas, le gap était, je trouvais, hyper important. Et ça m'avait marqué. Je me suis dit, en fait, je vais travailler d'abord. Et une fois que j'aurai travaillé, j'aurai la connaissance. On aura créé une relation avec ces équipes. On sera aux premières loges. Et si vous, chers investisseurs, donc mes actionnaires, vous avez une surface financière qui vous permet, on structurera un véhicule d'investissement et on deviendra partenaire des marques qui en auront besoin. Parce que ça, c'est un point clé. Pour moi, faire un deal, investir, c'est un moment. C'est pas une finalité, c'est un moment d'une aventure, d'une boîte. Et quand t'as ton modèle économique qui est structuré uniquement autour de ça, tu dis non toute la journée parce qu'il faut que ça colle à tes petits critères. Et moi, j'aime pas dire non. Donc là, je me suis dit, je vais pas dire non. C'est juste, je vais optimiser mon temps où je pourrais dire oui ou non. Mais si tu travailles le premier jour avec une boîte qui vient de commencer, que tu l'accompagnes pendant 3 ans, dans 3 ans, elle aura peut-être besoin d'argent, effectivement, pour accélérer. Il faudra juste être capable d'être là au bon endroit au bon moment. Et c'est un peu ça qu'on a fabriqué et qui existe toujours, donc qui est notre structure. C'est on fait deux choses. On fait de l'accompagnement opérationnel très, j'allais dire intime, mais c'est vrai, c'est très intime, très quotidien. Et quand je dis on, ce n'est pas que moi. Alors moi, je m'occupe de certains bouts que je sais à peu près faire. Et puis j'ai une équipe qui fait des choses autres, très différentes. On a une DA en interne qui... Alors quand je dis DA, c'est pas produit. Hein. Je sais que tu sais ce que c'est toi, donc c'est, on ne touche jamais à la créa, mais qui va s'occuper toute la plateforme de marque dans son ensemble, qui sait développer des plateformes e-commerce, qui sait prendre sa plume pour écrire une newsletter d'une marque ou piloter la stratégie Insta d'une autre. Donc ça, on propose ça, on fait de la délégation de compétences très concrètes sur les sujets financiers, marketing, de transformation digitale, assez intime. Mm-hmm. C'est vraiment ça le cœur du réacteur, c'est que je voulais apporter cette solution très concrète et très opérationnelle qui nous nourrit beaucoup en fait, qui nous nourrit énormément au moment où on doit analyser un dossier d'investissement.
Mm-hmm. Et aujourd'hui, donc vous êtes combien dans la boîte ?
On est 6.
Vous êtes 6 collaborateurs. Ouais. Donc du marketing, de la finance, de c'est quoi les différents
problèmes. les gros chapeaux, c'est alors en fait je vais même parler plutôt par on va exclure certains sujets, on ne touche donc jamais à la créa produit, c'est capital. On ne touche pas au cycle de production non plus, qui ont déjà énormément bougé, enfin que les modèles économiques ont tout bouleversé aussi, donc c'était, je trouvais ça compliqué. Et donc on ne touche pas au commercial. C'est un autre schéma aussi. Quand j'ai créé la boîte en 2015, on créait énormément de boîtes qui étaient 100% wholesale. Honnêtement, on en rencontre beaucoup moins. Ou en tout cas, celles qu'on rencontre, elles souffrent. Et donc, heureusement que je ne me suis pas staffé avec un super commercial qui, du coup, je le paierais à quasiment faire des choses dans lesquelles je ne crois pas forcément. Donc, en fait, on touche à la croissance, à l'organisation. Là, j'ai dit en ce moment, ça va paraître, je fais du recrutement moi-même. Alors là, pour le coup, j'ai une des marques qui a besoin d'un mec d'un certain niveau et c'est moi qui pilote le truc. Alors, je suis pas chasseur de tête, mais bon, c'est nous qui le faisons quand même. On travaille sur les aspects juridiques, on travaille sur les aspects sans être des avocats, mais on déblaye beaucoup le terrain. Donc, sur les sujets d'image, de branding, c'est un gros pôle, et sur la partie, oui, effectivement, délégation de compétences sur la direction financière.
Et tes collaborateurs, c'est quoi leur background en général? Ils sont passés par des agences,
de tout. Léna qui s'occupe de la partie agence, effectivement, enfin, de la partie, Brand, elle avait son agence, donc elle a un background qui est, elle sait, comme elle le dit, c'est elle qui le dit, je suis pas complètement d'accord avec elle, mais elle dit qu'elle sait pas compter. Elle a appris. Et c'est d'ailleurs ce qu'elle me dit souvent, et moi j'adore entendre ça de mon équipe, c'est, le financier, il se dit, j'apprends à faire des dessins, et celle qui fait des dessins, il apprend à compter. Et en fait, ils travaillent ensemble dans une dynamique commune. On n'a pas une approche je vais prendre un exemple très concret, si on refait la plateforme e-commerce d'une marque, on le fait pas sur un modèle d'agence. En fait, derrière, il y a un business plan aussi. Il y a une stratégie qui répond.
Vous avez tout en perspective, c'est ça qui est extraordinaire. Ouais.
Extraordinaire, c'est gentil. Je sais pas. En tout cas, c'est ça qui nous rend différents.
Mais ça vous permet de répondre vachement mieux qu'une agence. Quoi.
Voilà. Après, encore une fois, on s'impose jamais si la marque elle veut s'offrir la signature d'une agence très prestigieuse et que ça fait du sens, elle le fera. Nous, on a une approche effectivement plus ouverte qui va je reprends cet exemple parce que j'espère que ça parle bien. Faire un site e-commerce, c'est pas juste être joli. Ça va toucher plein d'autres bouts derrière, en fait, dans la mécanique. Et ça, on sait le faire. On a aussi quelqu'un dans notre équipe qui a un profil d'ingénieur. Une data scientist qui sont honnêtement des métiers que je comprenais pas encore il y a très longtemps. Et il manque encore peut-être des bouts, mais qui a une approche très pragmatique de développer une plateforme e-commerce. Qui n'est pas juste joli. Mais après, nous, on rajoute la couche jolie parce qu'il y a Léna qui sait le faire. Et puis, il y a Thomas qui arrive sur la partie plus financière. Et ça rend un truc sympa avec l'ambition de détecter du potentiel, en fait, et d'être ce fameux très tôt dans le process de sélection des marques, de créer des relations avec les managements. Ça ne veut pas dire qu'on investira dans toutes les boîtes. D'ailleurs, déjà aujourd'hui, et ça, alors c'est aussi pour ça qu'on se parle, pour peut-être en parler un petit peu, mais il y a eu une première phase. Là, il y en a une seconde. On n'avait pas des moyens extensibles qui nous ont pas permis de, encore une fois, fabriquer ce fameux track record de 52 boîtes d'un coup. Donc, on a eu une première phase d'aventure entrepreneuriale. On a accompagné beaucoup de boîtes, des boîtes dans lesquelles enfin des boîtes qu'on accompagne encore, certaines non, certaines qui ont qui continueront d'avancer sans nous, d'autres qui vont devoir s'arrêter parce que leur modèle économique fonctionne plus très bien, d'autres dans lesquelles on croit encore beaucoup et voilà, c'est et ça c'est cette valeur là très opérationnelle qui nous donne une coloration sympa quand nous on a envie de prendre un risque financier.
Alors raconte-nous un petit peu ta grille de sélection quand tu ouais, tout le processus de sélection, qu'est-ce que tu regardes, pourquoi t'investis, enfin pourquoi t'accompagnes ces boîtes-là en particulier, est-ce que tu peux nous dessiner un peu la grille d'analyse?
Ouais, je vais faire une banalité d'investisseur. Je pense que quand tu auras interviewé 10 mecs comme moi, à chaque fois, ça va être le même coup. Mais bon, je vais peut-être être le premier. Mais
ouais, tu seras le premier, donc c'est pas mal.
On mise encore plus, quand c'est surtout des boîtes jeunes, on mise que sur l'homme, que sur l'entrepreneur, l'équipe. Ça peut paraître simple, mais il n'y a que ça. C'est vraiment réel. En fait, tu t'en rends compte que quand tu as mis un euro dans une boîte. Nous, l'avantage, c'est qu'on les fréquente très longtemps avant. Et en plus, on les voit des bons jours et des mauvais jours. Il y a des fois où vraiment j'ai envie de les buter et inversement, ils doivent avoir envie de me buter. Mais donc, c'est comme un couple, quoi. Et ça sera, j'espère que ça sera très, très, très longtemps notre première grille. Ça sera l'homme, en fait. Il y a des gens qui te donnent une confiance dès le premier instant et que tu sais qu'ils vont développer quelque chose de bien. Ça prendra plus de temps. Ça peut foirer quand même. Parce que tu as le droit d'avoir un échec, en fait. C'est pas très grave. En fait, investir, c'est prendre un risque. Donc, c'est juste qu'il faut que tu l'arbitres. Mais l'homme, c'est capital. Et nous, le deuxième truc, mais qui est quasiment au même niveau, c'est ce que j'évoquais peut-être tout à l'heure, c'est la plateforme de marque. On adore les marques. Moi, j'adore les logos. Je suis un passionné. Alors, j'aime pas avoir des logos sur moi, mais je suis un passionné de logos, de plateformes, de marques, de... Et ça depuis tout petit. Hein. Je dessinais des logos quand j'étais petit. La plateforme de marque, ça on adore. Cette capacité d'avoir quelque chose de très cohérent, de très simple à comprendre, alors que c'est hyper compliqué à mettre en place, quelque chose sur lequel tu peux t'appuyer. Et en fait, pourquoi on adore les plateformes de marque et pourquoi on regarde ça d'abord et très tôt dans notre process, c'est comme les modèles économiques des marques ont, selon nous, changé et continueront d'évoluer dans ce sens. Demain, une marque qui arrive à accrocher une communauté ou plusieurs communautés, et je vais être un peu le financier, mais elle pourra vendre ce qu'elle veut à qui elle veut. Je prends l'exemple d'Apple. Moi, si demain, ils me sortent un frigo, je l'achète.
Ouais, c'est clair.
Parce qu'ils m'ont accroché avec la plateforme, avec ce côté un peu gang. Ou même, on va prendre Supreme ou des marques comme ça très fortes qui ont trouvé leur marché, leur communauté. Et là, maintenant, la techno a fait qu'on peut être en connexion directe avec ces gens-là. Aussi bien sur l'ensemble de la chaîne, en fait. Bah, une fois que tu as cette accroche, tu peux pérenniser et fabriquer du contenu autour de cette... C'est la plateforme de marque est capitale. Je prends un exemple. On accompagne une marque qu'on adore dans la bouffe, qui s'appelle Blend, qui fait des burgers. Le mec, Victor, c'est un passionné de marque. En fait, il a créé une marque avant de faire des burgers. À la fin de la journée, il fait des burgers qui sont bons, hein, mais cette plateforme, il en parle comme si c'est... Enfin, comme s'il avait créé Apple. Et je trouve ça, et nous, ça nous excite particulièrement parce que on sait pas, mais si demain Blaine il se lance dans autre chose et qu'il a réussi à fabriquer ce gang autour de sa marque, il peut traduire ça par une réalité économique. Donc, nous, les deux choses qu'on adore regarder d'abord, c'est bon, bien évidemment, l'équipe, le manager, le patron, l'entrepreneur et la plateforme de marque. Et après, comme on a une approche, ça c'est le point de départ souvent. Encore une fois, comme on n'est pas forcément obligé de commencer notre relation avec une marque par une approche transactionnelle, par un investissement à court terme, on peut s'arrêter là. Qu'elle fasse 1000 euros ou 10 000 ou 100 000 ou 10 millions, on peut tenter d'initier une relation avec elle. Et puis après, dans le chemin, on commence par des problématiques très concrètes. Et dans le chemin, bah, si elle a besoin d'argent, on y va. Et là, les critères sur lesquels on va être très vigilant, c'est le modèle économique. Donc, on croit énormément au direct consumer, donc les marques qui sont en direct. Alors après, je suis pas dogmatique à dire le wholesale est mort, vive le retail, il faut du physique, ah non, du online. Très honnêtement, je pense que tout ça va encore bouger. On prend l'exemple des Galeries Lafayette à Paris sur les Champs. On va, à mon avis, être tous très surpris de tout ce qu'ils tentent là et tout ce qu'ils vont mettre en place. Et ces acteurs-là vont bouger aussi. Ils sont obligés de bouger, de se réinventer. Et des jeunes marques indépendantes vont peut-être avoir un terrain d'adhérence un peu plus fort avec ces acteurs. Donc, mais clairement, aujourd'hui, on est très à l'écoute des marques directes, quoi, des marques e-commerce. On évoquait avant de commencer l'interview de certaines marques, une marque comme Patine, où tu parlais de Asphalt également. Des marques, voilà, qui sont directes. L'exemple de Star en France, ça peut être Cézanne, ou ces marques qui sont très directes. Et après, nous, encore une fois, on a une approche où la plateforme de marque fait qu'on peut parler à des communautés, et donc on n'a pas un positionnement, dire il faut le fameux mot luxe, dans lequel je le comprends même plus, en fait. C'est créatif, on aime la créativité. Ouais. Après, elle peut trouver son audience sur différents positionnements. Donc voilà, nous, on est le management, la plateforme et la spécificité du modèle économique avec un vrai accent sur... Et après, la performance financière, on sait détecter les 2-3 indicateurs qui peuvent être de bons indicateurs et qui pourraient traduire une croissance s'il y a l'essence, en fait. Ça, c'est une de nos constatations, c'est que les cycles d'investissement, ils ont bougé dans l'industrie de la mode il y a quelques temps avec le modèle wholesale. Tu avais... encore une fois en simplifiant, mais tu montrais tes produits et puis tu avais une commande en fait qui pouvait opérer avec un premier paiement, donc ça pouvait te permettre de commencer à cranter et puis donc tu n'avais pas forcément besoin d'investir tout de suite. Aujourd'hui, quand tu es sur un modèle direct, ton besoin d'argent il est un peu plus tôt dans ton cycle.
Et justement, alors c'est quoi ta proof of concept quand tu es sur un modèle comme ça et que tu as besoin d'argent tôt et pour séduire un investisseur? Part ta marque et ton track record.
Si au bout de 3 minutes ton produit il est out of stock, même si t'en avais que 2, j'exagère un peu hein, parce que c'est peut-être pas que 2, mais c'est un petit indicateur sympa. Si tu jettes un produit sur une plateforme et que vraiment qu'il y a une traction dessus et qu'il est vendu, en fait, si t'arrives à raconter cette histoire là
potentiellement tu peux la raconter à beaucoup plus de gens.
Ouais, et puis après, c'est assez simple. En fait, l'avantage de l'e-commerce, si on revient sur ce... C'est très mesurable. Tout est mesurable. 1 euro dépensé est mesurable. Tu sais la portée de cet euro dépensé, tu peux le tracer jusqu'au bout pour voir. Et du coup, tu peux extrapoler ça. J'ai eu 1 euro, voilà ce que j'ai fait. Donnez-moi 10, voilà ce que je vais faire. C'est ce qu'on essaye aussi, nous, de raconter aux marques quand on les accompagne, de fabriquer ça. Un modèle wholesale, c'est plus complexe. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, Jacques Mus devient Jacques Mus, par exemple?
C'est quoi?
Franchement, j'en sais rien, il y a trop d'ingrédients. Lui, déjà, il est incroyable. Mais il était incroyable il y a 5 ans, en fait.
Ouais.
Et puis à un moment, il se passe un truc un peu magique où ça devient très désirable. Alors, c'est plein d'ingrédients qu'il a réussi à mettre. Je crois que sa marque, elle va fêter bientôt ses 10 ans.
Ouais, c'est clair. Donc c'est déjà un mouton qui est sur le marché.
Donc, sans le connaître intimement, mais j'imagine qu'en 10 ans, il y a eu des périodes plus dures que maintenant. Et pourtant, il était aussi bon avant. Alors, il a peut-être fait des erreurs qu'il a réussi à corriger parce qu'il est intelligent. Mais il y a des bouts qui... Et ça, en fait, quand tu es un investisseur, et moi, souvent, j'avais ce retour de mes actionnaires, ils me disent, qu'est-ce qui fait que ça va prendre? Alors, je vais t'avouer un petit secret. J'avais des petits atouts dans ma manche. Il y avait Colette, par moment. Je disais, mais ils sont distribués chez Colette. Alors là, ça pouvait faire tilt dans la tête d'un mec, d'un investisseur. Ah ouais, c'est vrai, il avait... Bon, malheureusement, Colette a fermé. Donc, tu peux plus avoir ce stamp. Mais finalement, être distribué chez Colette, c'était pas un modèle économique. Je pense que tout le monde le sait. C'était génial. Mais c'est pas avec ça que tu faisais de l'argent. Mais ça apportait le truc.
C'était l'approbation.
Et donc aujourd'hui, quelque part, et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'elle a aussi arrêté, que Colette a décidé d'arrêter, de ne pas continuer. Je ne dis pas qu'on n'a plus besoin de Colette, bien au contraire, parce que c'est un succès extraordinaire et je pense qu'il va être du mal à dupliquer ce genre d'aventure. Mais aujourd'hui, il vaut mieux dire j'ai 500 000 followers sur Insta avec un beau taux d'engagement et quand je propose un produit, je le vends, que je suis chez Colette. En tout cas, c'est pas, selon nous, incompatible avec de la créativité poussée à l'extrême et une plateforme de marque digne d'une plateforme de marque. Aujourd'hui encore, je trouve les fameux, les DNVB, Digital Native Vertical Brands, s'inscrivent encore un peu dans le, peut-être dans des modèles casual, dans des produits, peut-être, je pense que ça va bouger. Les barrières qui manquent encore à une marque très créative, avec un positionnement de prix peut-être un peu plus élevé, sur du 100% e-commerce, elles sont aussi technologiques. Les problématiques de logistique, acheter un produit qui coûte cher, en disant, ah, il faut que je le renvoie, machin. Honnêtement, je suis pas devin, mais je pense que la techno va nous rendre des grands services. Si un jour on est livré par drone en 15 secondes, le fait qu'il faut le renvoyer le produit, bon, bah, c'est pas
ça
très
sera
grave.
Plus du tout une
sillage. Je reprends sur sillage. Il a cassé un bout du modèle grâce à ça. Il te vend un parfum en 100% online sans que tu le testes. Bah, il a une façon. Je vous invite tous à aller acheter un produit et faire l'essai. Moi, j'ai été bluffé par l'expérience globale. C'est hyper bien fait. Pourtant, c'est pas de la science-fiction. Donc,
moi, ouais, ça reste du parfum, quoi. C'est
ouais. Mais c'est vrai que le parfum, c'est le coup classique. Jamais on vendra du parfum sur online. Il faut le sentir. Bah, j'en sais rien. Peut-être que si, quand même. Peut-être que si. Et les modes très qui défilent avec un positionnement prix, etc. Il y a eu pendant encore, il y a encore des barrières, je pense, pour ces modèles très directs. Nous, on adore essayer. Et je cite une marque comme Patine, qui a une plateforme de marque très 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 poussée. Sur un modèle 100% online avec un positionnement prix qui est loin d'être pas cher. Elle vend, si on prend l'exemple d'un t-shirt, c'est un t-shirt qui coûte cher. 50 euros pour un t-shirt, c'est beaucoup d'argent. Mais elle le fait quand même 100% online. Et donc, il y a des nouveaux modèles qui sont en train de combiner un peu les deux mondes parfaits, le côté e-commerce only et plateforme de marque canon. Et nous, c'est ce qu'on recherchera aujourd'hui et ce qu'on va continuer de rechercher.
Et alors, comment tu t'en parlais tout à l'heure un petit peu, mais comment tu les sources et comment tu te nourris et comment tu restes au fait de ce qui se passe en sachant qu'il y a beaucoup de concurrence et que t'es pas tout seul sur le business.
Alors, j'écoute les jeunes, donc j'ai des stagiaires et je leur impose une réunion. Et ils me détestent peut-être, mais je leur impose une réunion. C'est vraiment basique, hein, mais une fois par semaine, on prend un petit déjeuner tous ensemble. Et je suis tout seul avec mes stagiaires et je leur impose de venir avec 5 idées chacun de marque, des trucs que par moment je ne comprends pas même moi-même, hein, des marques qui sont en train de popper avec des nouveaux médias. Donc ça, c'est la couche un peu zéro. J'adore faire ça. Puis je le fais avec les stagiaires et je le fais avec l'équipe aussi. Et donc on va chercher des boîtes. Alors on se sert d'Instagram, on se sert des médias un peu du secteur, on lit beaucoup. Je vais parler pour la première fois de mon père. J'ai parlé beaucoup de ma mère et mais mon père il me forçait à lire. Alors j'étais déjà très jeune négociateur, il me forçait à lire les Échos quand j'étais gosse et ça me saoulait. Alors j'avais réussi à dealer que je lisais les Échos et l'équipe, mais malgré tout ça me saoulait de lire. Et en fait il avait raison. Lire, enfin être à l'écoute de ce qui se fait, ça apporte de la valeur. Tu trouves des trucs, tu trouves des petites pépites en fait en screenant comme ça de façon très proactive. Ça c'est un peu la couche zéro. On est à l'écoute, on essaie de vraiment découvrir. On a une règle, c'est qu'on rencontre tout le monde. On n'a pas de critères en fait fermés à l'entrée. Notre seul critère, c'est la plateforme de marque, encore une fois. Mais c'est pas parce que on a souvent des entrepreneurs qui disent mais vous savez, je fais pas encore beaucoup de chiffre d'affaires. En fait, je le savais déjà avant de lui dire « Viens, on se rencontre. » Parce que c'est assez facile de fabriquer un chiffre d'affaires d'une marque en regardant soit les points de vente où ils sont, ou alors le site e-commerce. Maintenant, avec Google, tu as accès à plein de trucs. Hein, donc, tu peux fabriquer le chiffre d'affaires d'une boîte très vite sans même qu'il ait déposé ses comptes. Et donc, souvent, on a cette remarque hein, « On n'est pas encore lancé, on n'a pas beaucoup... » En fait, nous, on a envie de vous rencontrer maintenant. Parce que donc on va vraiment dans cette approche très proactive d'aller chercher les boîtes, c'est la couche zéro. Après on a les réseaux un peu classiques, donc les banques d'affaires, toute la sphère qui nous connaît et qui du coup nous sollicite avec des dossiers. C'est pas forcément là où on est le plus à l'aise parce que c'est des dossiers qu'on appelle intermédiaires, donc où il y a une concurrence là pour le coup qui est très violente parce que le banquier d'affaires il va te dire qu'il a pensé qu'à toi, alors c'est pas très vrai, hein, il pense à tous les mecs qui potentiellement peuvent mettre le même genre de ticket. Donc ça c'est mais malgré tout ça apporte des opportunités de qualité. Ensuite on essaye, alors même si je suis pas le plus mondain de la bande, mais on essaye de participer aux événements, on essaye Tout à l'heure, je suis avec, et je suis très content d'ailleurs, je participe à un jury à l'IFM avec Charlotte Dereux qui a donc fondé Patine. Et donc, il y a des étudiants, des jeunes étudiants qui vont nous pitcher les projets. Bah, c'est canon, moi j'adore. Et dans le lot, il y en a toujours y a un peut-être qui va avoir un truc canon et on pourra discuter. Donc, vraiment, c'est compliqué parce que tu vois que ça va dans tous les sens et en même temps, c'est hyper excitant. Parce que ça peut venir d'un peu n'importe où. Et nous, on a. Alors, je vais pas tout te révéler là, parce que. Parce que c'est pas fini. et ça serait te mentir. Et deux, c'est un peu notre secret, notre botte secrète. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai un ingénieur dans ma team. Et c'est un ingénieur qui est passionné d'intelligence artificielle. Et il m'a expliqué un peu ce que ça voulait dire la data. Et il m'a expliqué qu'en fait, il m'avait scotché parce qu'il m'avait dit, tiens, cite-moi 5 marques cool qui existent, qu'on a acté que c'était des succès. Bon, je sais pas, je lui ai dit Apple, Supreme, enfin des marques assez faciles, tu vois. Mm. Bah, tu vois, moi, avec ma culture d'ingénieur, avec ce que je suis, je sais détecter les ingrédients qui ont réussi à fabriquer ces succès. Bah, je peux t'en faire un algorithme. Je sais où là. Comment ça me parlait? En fait, je peux nourrir un algorithme avec ces premiers exemples que tu m'as donnés, mais tous les autres, les succès, les échecs. Qu'est-ce qui a fait qu'une marque, en posant des bonnes questions? Et on est en train de fabriquer ça. Alors c'est en train d'être testé. On teste et on rajoute cette couche là. En fait, si tu poses des bonnes questions à cette fameuse intelligence artificielle et si tu arrives à confronter ça à de la data globale. Bah, grâce à des boîtes comme Apple ou des Jacquemus qu'on évoquait tout à l'heure, pourquoi ça a été un succès? Moi, t'as vu, j'ai pas réussi à répondre de façon très précise. Il y a certains bouts que la data peut nous apporter. Et quand t'as ça en place, bah, tu peux screener le marché de façon assez efficace. Et surtout, ce qui est une de mes angoisses globales, c'est que moi, je vois des trucs passer aux US, en Asie. Ben, en fait, il faut juste être au bon endroit, hein, mais si tu les vois même pas, tu le fais pas en fait. Mmh. Et ça c'est notre challenge pour 2019, c'est qu'on veut ouvrir un peu la porte, qu'on veut essayer au moins détecter. Après, est-ce qu'on arrivera à faire, c'est un autre débat, mais on veut au moins détecter des boîtes ailleurs. Mmh. Des marques canon, il y en a partout, il y en a au fin fond de la Chine, il va y en avoir des cool.
Bah forcément. Hein.
Mais il faut aller les chercher. Et ça, cet algorithme sur lequel on est en train de travailler est ultra excitant parce que ça apporte quelque chose de complémentaire. Et j'ai appris en travaillant avec lui, en travaillant sur cette, on va appeler ça l'intelligence artificielle, mais c'est un peu un mot fourre-tout peut-être là comme ça dit, un peu tôt le matin, mais en fait c'est si tu travailles bien avec cette techno, cette façon de faire, ça t'apporte quelque chose de complémentaire à ce que toi t'as déjà en magasin, ce que t'es capable d'apporter toi dans ta façon de regarder un dossier. Et de le screening, franchement, tu peux poser des questions sympas. Tu vois, je vais prendre un exemple qui m'avait marqué. Tu prends Google, tu tapes le nom d'un fondateur. L'être humain, l'analyste financier que tu pourras avoir, que j'ai dans mon équipe, allez, si je suis un peu dur, je vais lui demander d'aller à la page 2, à la page 3, à la page 4 de Google pour aller chercher des trucs sur lui en tant que personne. Et c'est déjà pas mal d'aller jusqu'à page 3 ou 4. Je suis pas sûr que tout le monde va jusqu'à page 3 ou 4 de Google. Franchement, on va l'appeler l'ordinateur, il peut aller jusqu'à la page 200 et détecter les trucs qui sont à la page 200, qui ont été bien planqués. Et alors, ça ne veut pas dire que tu ne feras pas un deal, mais ça veut dire que tu vas trouver des choses et que tu auras cette information, cette intelligence pour ensuite analyser si tu prends un risque ou pas d'avancer dans un deal avec une boîte. Et sans les nommer, mais il y a eu de façon très récente, alors je peux en nommer un mec comme le fondateur, c'est un autre secteur, donc WeWork, il y a eu des sales trucs là qui viennent d'arriver. Tout peut se savoir maintenant avec la techno. Et tu peux avoir vraiment beaucoup de data. Encore une fois, ça ne veut pas dire parce que tu as fait une erreur une fois dans ta vie que tu la feras tout le temps. Mais au moins, en tant qu'investisseur, tu le sais. Et ça va nous apporter une couche supplémentaire dans la façon de screener le marché. Et encore une fois, comme nous, on restera toujours en dehors du cycle transactionnel pur de dire bon, on va investir tel montant dans telle boîte, on peut leur parler très tôt. Donc on veut détecter vite. Et un autre exemple, si l'un des ingrédients de succès, c'est que, vraiment, je ne dis pas que c'est ce qu'on va faire, mais que le logo a été fait par l'agence X dès le premier jour de la boîte. En fait, sachez le trouver vite. parce que l'agence X, elle en parle sur son site. Si je suis plugué avec tout ça, je peux prendre cette data. Ah, et là, il peut y avoir un pop-up qui dit « Ah, bah l'agence X vient de faire le logo de la marque Y qui vient de se lancer. »
Mais le danger de ça, c'est pas d'homogénéiser le marché ?
Non, parce que ça sera jamais ça qui décidera. En fait, c'est des couches complémentaires. C'est de l'information, des éléments.
Pour prendre ta
et l'avantage de la techno, c'est qu'elle elle les trie, elle les arrange, enfin, elle les collecte d'abord. Elle les arrange, elle les trie, elle t'en fait quelque chose de pré-mâché, en fait. Et après, c'est à toi de décider. Alors oui, t'as raison. Si tu vas jusqu'au bout, tu dis tout le monde sera pareil et ça veut dire que toutes les boîtes qui réussiront aura eu l'agence X au début. Je pense pas. C'est-à-dire que tout le monde va pas avoir l'agence X. Mais c'est un élément complémentaire et c'est des éléments qui te permettent. On parlait de comment on source intelligemment. Ça fait partie de notre process. Et ça a beaucoup à terme, j'espère, de valeur d'avoir cette approche toujours proactive, mais jusqu'au bout du truc.
Et chez les fondateurs, tu regardes quoi ? Est-ce qu'ils ont des traits de caractère communs ? Est-ce qu'ils ont des... Et c'est quoi la grille de lecture, encore une fois, pour un fondateur,
j'adore quand ils me parlent de leur marque pendant des heures.
Avec des étoiles dans les yeux ?
Ouais. Après, il se passe des trucs. C'est pour ça que j'adore mon métier, c'est qu'il se passe de la magie. Il y a des mecs qui... Enfin, des personnes qui t'emportent d'un coup, quoi. Au bout de 2 minutes, tu sens que t'as envie d'aller avec eux. Donc ça, c'est pas rationnel, hein. C'est
instinctif, ouais.
Ouais, tu te fais énorme. C'est pour ça que, encore une fois, moi, je veux me déplacer, je vais voir. Là, il y a plein de petits bouts. Pardon si c'est pas assez, si c'est vague, mais quand je rentre dans un bureau, quand je rentre dans une boîte, la façon dont tout est organisé, la façon dont ils se parlent, la façon dont ils disent bonjour, il se passe plein de trucs. Et après, ouais, s'il me parle pendant des heures de sa marque d'abord, avant de me dire qu'il a fait 1000 ou 2000, parce qu'en fait, je m'en moque un peu qu'il ait fait 1000 ou 2000. Pour moi, dans les nouveaux modèles, si t'as beaucoup d'essence, tu veux faire beaucoup vite. Si t'as peu d'essence, tu peux avoir une belle perf, mais ça veut pas dire que ça fera 1 million tout de suite. Donc, j'adore quand on parle de marque et j'adore quand ils sont, assez directs dans leur approche globale de leur modèle et qui sont pas forcément à essayer de me convaincre que tout va bien dans le meilleur des mondes, dans un modèle dans lequel on croit pas. Donc c'est ça qu'on essaie, nous, très vite, de détecter dans le fondateur, c'est s'il a compris que le marché a changé, en fait. On a mis du temps à le comprendre, hein. Que le marché a vraiment bougé de la mode. Alors, encore une fois, nous, la mode est un gros bout de notre business, mais on a aussi la beauté, les accessoires, la food, mais les choses ont changé.
Bon, je vais te poser une question un peu avec mes gros sabots, mais qu'est-ce qui a changé ?
Tu connais cet adage ou cette, je sais pas si on dit comme ça, mais le client est roi. Je pense que c'était faux. Le client, il était roi dans un spectre qu'on lui donnait.
Oui.
Maintenant, le client, il est vraiment roi. C'est tout ce qui a changé, selon moi. C'est qu'il a pris le pouvoir réellement grâce à la techno, grâce à l'iPhone que je vois sur la table, grâce à tout ça. Il a pris le pouvoir. Il décide d'aimer ou pas aimer. Donc, c'est ça qui a changé. Donc, tout le schéma global était organisé autrement. On va prendre une marque et on va prendre un cas qui sera peut-être pas parfait sur toute la ligne, mais un peu classique. T'as un fondateur créatif, il dessine une collection, il la montre à l'occasion d'un défilé, un parterre de quelques journalistes choisis et d'acheteurs. Ensuite, il rentre dans une période classique de vente où il doit vendre sa collection et espérer qu'il ait bon papier dans Vogue, dans Truc, dans Machin. Une fois qu'il y a ça, t'as les magasins multimarques qui viennent et qui font une commande. Et là, tu vas la produire. Puis après, tu la mets à disposition des clients. Mais il y aurait déjà eu combien de filtres en amont pour dire que le client, il a le droit de choisir. Il a le droit de choisir dans ce que l'acheteur avait choisi, dans ce que la presse avait poussé, etc. Il était pas client, le client n'était pas roi du tout. Maintenant, qu'est-ce que tu fais ? C'est cassé, ça. Cette ligne est cassée,
là, c'est fini,
selon moi. Donc c'est ça qui a changé. Tout le monde parle des millennials, il y a tout le temps un halt. Moi, ça me fait marre, et c'est juste du marketing. Hein. Ça, c'est des clients. En fait, c'est des clients jeunes, mais il y en aura encore deux. C'est juste une façon différente de consommer des produits. Et le fameux client est roi, moi, c'est ce qui m'habite maintenant. C'est que tu l'es vraiment. Alors, encore une fois, tout n'est pas noir ou blanc. Mais là, tu as la possibilité de dire, et j'ai eu cette Alexandre Matuissi, qui a fondé une marque que j'adore, qui s'appelle Ami, m'a raconté ça il y a pas longtemps. Il me dit, tu sais, il y a quelques temps, je faisais donc le schéma classique, et puis je faisais ma collection, et puis voilà, je les montre à la presse, etc., etc. Maintenant, de temps en temps, je me dis, putain, j'ai qu'à mettre un truc sur Insta, un dessin, ou un produit un peu plus abouti, un bleu, un vert, et demander, tu préfères le bleu ou le vert? Et si tout le monde dit le bleu, bah, je vais faire le bleu, en fait. Et c'est un changement radical de façon d'appréhender un modèle. Mmh. Et donc ça, ça a changé, bouleversé tout. Et les éléments, c'est la techno, je parle beaucoup de techno, mais c'est Internet, en fait, Internet. Il y en a d'autres qui vont arriver, hein. On parle de l'intelligence artificielle, d'un point de vue créatif, ça pourra faire encore une fois évoluer les choses. Mmh. Donc ouais, c'est ça qui a changé.
Tu mets des tickets de combien dans les boîtes?
On n'a pas de règle absolue et fermée. Et c'est d'ailleurs les fameux 8 slides, il y avait ça, c'est que je veux être capable de mettre 10 000 euros comme 1 million de dollars dans la boîte. Parce que c'est juste une question de timing. Au début, ça sert à rien de mettre trop, parce que sinon tu prends toute la boîte, en fait. Mmh. Donc, alors oui, après, si t'es un investisseur intelligent, mettre 10 000 euros, c'est aussi pénible et long et compliqué qu'un million. Donc, d'un point de vue modèle économique, vous mettez 1 million. Nous, on essaye de se battre contre ça et de pouvoir continuer à investir des montants vraiment tôt.
Au tout début, en fait.
Ouais, donc ça peut être... C'est plutôt... 10 000, c'est peut-être... parce qu'avec 10 000 euros, tu fais pas non plus énormément de choses dans cette industrie. Donc, ça peut être 50 000... Alors, je parle pardon en dollars, parce que là, on est en train de lever un fonds en dollars, donc mais l'équivalent est pas loin, hein, donc c'est 50 000 dollars ou euros, et on aimerait pouvoir aller jusqu'à 1 ou 2 millions. Mm. Aujourd'hui, on est plutôt à entre 50 et 250, 500, et on tend à aller un peu plus loin dans le schéma.
Alors, qu'est-ce que ça implique pour la boîte, pour le fondateur?
Bah, tu deviens son partenaire financier, donc tu as des actions de sa boîte. Donc
c'est quoi en général le montant?
Bah, alors nous, on a une culture minoritaire, donc on reste toujours minoritaire, donc il a le contrôle. Alors quand je dis il, ça peut il ou plusieurs, hein, ils peuvent être plusieurs fondateurs. Donc le groupe fondateur a le contrôle. On a parlé tout à l'heure de 80-20, c'est souvent ça. C'est 80-20, ça peut être 75-15, enfin tu vois, il n'y a pas de règle. Hein. Après, c'est tu peux essayer de rationaliser d'un point de vue très financier. Les choses, mais c'est aussi un équilibre à respecter entre le fondateur, je veux qu'il soit toujours content de se lever le matin et qu'il a encore de l'énergie pour amener sa boîte, et sachant qu'il aura certainement d'autres cycles de financement à avoir, et donc...
Parce que vous êtes quand même vraiment au début de...
Ouais, nous l'idée c'est on est tôt, et puis on peut sortir tôt si l'entrepreneur a besoin de mecs plus solides que nous.
Mmh. D'accord.
Donc c'est ça, c'est... notre boîte s'appelle Mothers, comme tu l'as évoqué. On aime bien cette image. On a un peu envie d'être les mamans des projets. Mmh. Donc une maman,
des,
c'est
des
couveuses
un peu, ouais. Des,
pour moi, une mère, c'est solide. Ça te donne les bons ingrédients pour être bien dans ta vie après, mais c'est derrière toi. Et ça te prend pas la lumière. Mmh. Moi, c'est comme ça que j'ai été élevé. Et ça dépend des mères, et de temps en temps c'est un peu pervers, hein, quand même. Heureusement qu'il y a mon père pour un peu redurcir le truc, mais et on a envie d'être ça pour les boîtes, en fait. On veut vous donner les bons ingrédients, mais c'est vous les stars, c'est vous
on est derrière nous,
et donc on sera toujours derrière, et on sera jamais à prendre la lumière. Nous, on a une approche, j'espère, la plus impossible de l'investissement, en fait. Sans vous, on est rien. On n'est que de l'argent qui est sur une table, et on peut faire le truc là, on met un
de l'argent intelligent. Parce que souvent, quand je parle avec les entrepreneurs, certains te disent, ouais, c'est vrai qu'on a fait rentrer quelqu'un dans notre boîte, mais le mec, il nous fait faire des conneries parce qu'il veut toujours plus de chiffre d'affaires, toujours plus de croissance, etc. Et on est en train de bousiller notre marque, quoi. Et ça, mais vous, c'est pas du tout votre approche, quoi. J'ai l'impression que vous êtes pas là-dedans.
Je veux pas qu'on pense qu'on est juste là pour. On est malheureusement pas là pour faire du bénévolat. Enfin, j'aimerais bien, mais on peut pas le faire. En fait, moi, c'est ma boîte. Il faut que je paye mes équipes, tout ça. Enfin, faut que ça continue d'avancer. Donc, on espère trouver des entrepreneurs qui nous permettront de cranter. Mais c'est vrai que le fait d'être pas structuré comme un fonds classique fait qu'on n'a pas le même espace-temps. Normalement, un investisseur stratégique type LVMH, ces gens-là, ils n'ont pas non plus le même espace-temps. Ils peuvent prendre leur temps, mais ils ont d'autres dynamiques. Ils ont le contrôle en tête. Nous, on essaie de cumuler deux. Et tu as très bien résumé. Un investisseur, souvent, ouais, il pousse un peu à... il pousse pour cracher. C'est un risque. Après, c'est pas simple non plus. Hein. Quand tu mets de l'argent sur un business plan et qu'il y a un peu de, ça peut être tenté d'accélérer aussi et de pousser un petit peu plus fort pour que ça continue. Nous, comme on l'a dit tout à l'heure, notre approche, elle est bienveillante, elle est pas dogmatique. Et donc, je vais avouer quelque chose que tout le monde doit savoir si tu googles mon nom. Hein. On n'a pas de hit, nous, hein, derrière nous. On n'a pas le fameux track record où on investit dans... où on a fait Sandro, où on a fait machin. Donc, en fait, on n'a pas toutes les clés.
Mais est-ce que vous n'avez pas encore fait de gros coups, pour l'instant ?
Non, et puis j'espère même que si ça nous arrive, on se dira... Enfin, moi, je suis... En fait, il y a beaucoup de chance aussi hein, dans tout ça. Il y a des éléments que tu ne maîtriseras pas. T'es au bon endroit au bon moment, ça, c'est pas moi qui décide. Hein. C'est pas parce que je suis bon ou pas bon. Donc en fait, c'est pas parce que j'aurai un hit que je vais essayer de le répliquer à chaque fois. Parce que je pense pas que ce soit la bonne façon de le faire. Mais c'est ça que j'ai du mal à... Et on le vit en ce moment. Quand t'as des investisseurs, ils disent « Mais quel est ton track record ?» Bien évidemment que si t'as fait que des hits dans ta vie, ça aide à dire « J'ai fait 10 hits dans ma vie, je ferai bien le 11e, le 12e, le 13e. » L'approche, elle est dans notre cas, nous, comme on n'en a pas, on essaie de l'appréhender différemment. Mais ça nous donne, pour les marques, quelque chose de pas dogmatique. On ne fait pas toujours la même chose. Les marques, elles sont tellement différentes qu'on ne peut pas appliquer une règle. Selon moi, il n'y en a pas. Il y a des choses à ne pas faire, il y a des choses à... Enfin, il y a des éléments dans lesquels on doit s'inscrire vraiment ou s'inspirer. Mais il n'y a pas de recette magique. Et je pense qu'il y en aura de moins en moins. Donc, nous, en investissement, on essaie aussi de caler ça.
Pourquoi tu as décidé d'investir chez Amélie Pichard, chez Blend, chez Andrea Crow, chez Panoply, chez Marie Marot ?
Alors, on n'est pas actionnaire de toutes ces boîtes. Ouais. On les accompagne toutes, effectivement. On n'est pas actionnaire de toutes. Parce que notre modèle n'est pas une obligation. C'est parce qu'on accompagne personnellement une marque qu'on sera actionnaire. Tous les cas que tu as cités, il y a un tronc commun, c'est les marques. Hein, je le répète, mais je les adore. Elles sont toutes très différentes. Ouais. Amélie, c'est un ovni. Marie Marot, c'est un ovni aussi dans son style, mais c'est complètement différent. Blend aussi. Alors, j'étais client Blend, pour être très honnête, avant même de les rencontrer. Donc, c'est peut-être ça, là. C'est parce que j'aime bien les burgers. Mais la plateforme de marque nous excite vraiment. On adore bosser avec ces marques-là. Après, les marques que tu évoques, elles traduisent aussi cette approche. On n'a pas... On accompagne les boîtes qui veulent bien aussi qu'on les accompagne. En fait, c'est une rencontre à un moment T. Et il y en a d'autres que j'aimerais accompagner, qu'on n'a pas encore forcément rencontrées. Et peut-être d'autres qui n'ont pas voulu parce que ce n'était pas le bon moment, un peu trop tôt, un peu trop tard. Donc on est encore au début de notre aventure. Mais là, dans les boîtes qu'on a accompagnées jusqu'à maintenant, à chaque fois, c'est la marque. Et puis la vision globale du truc. Amélie, elle a cette... alors ça va dans tous les sens. Elle teste plein de trucs. À chaque fois, je trouve que c'est assez cohérent avec qui elle est, avec la ligne et avec en bas ce que veulent les clients. Et comme on est très client focus, on essaie toujours de trouver ça. Et aujourd'hui, on tend à accélérer ça et on a commencé au mois de décembre la structuration de la version 2 de notre fonds. Là, pour le coup, on peut dire fonds, même si ça n'est pas structuré comme un fonds, parce qu'encore une fois, ce n'est pas juridiquement un fonds. Mais c'est une structure d'investissement assez sympa, assez différente, qui va accumuler un peu tout ça, parce que le client a besoin de prendre le pouvoir. Il l'a peut-être même déjà pris, et les marques ont besoin de comprendre ça. Et donc, nous, on essaye d'être l'élément un peu liant de ce schéma global. Et donc, les marques. Et bien évidemment, à chaque fois, il y a un entrepreneur derrière qui a compris tout ça. Il faut... Je sais que tu as interviewé certaines et tu me l'évoquais en amont. Il se passe un truc quoi, quand tu les entends. Et Victor de chez Blend aussi, par exemple. Même si c'est moins mode, il a une culture quand même qui est très teintée des mêmes ingrédients pour fabriquer une marque.
Et il y avait un truc qui m'intriguait aussi, c'est j'ai l'impression que vous êtes sur plein de marchés différents finalement. Parce que vous êtes sur la food, sur la cosmétique, sur le vêtement, etc. Est-ce que c'est pas dangereux de s'éparpiller comme ça ?
Alors, Bah, je te le dirai si un jour on s'est crashé. Dangereux, je sais pas. En tout cas, le point commun entre tout ça, c'est les clients.
Ouais.
C'est que ce sont des marques qui vendent des produits.
Oui.
Et ça, c'est notre truc. Je me demande pas comment ni pourquoi, mais j'arrive à peu près à comprendre qu'une marque est plus excitante et sexy et donne envie donc d'acheter un produit qu'une autre. Donc, c'est ça qui les relie toutes, en fait. Mmh. Et pour moi, il y a la plateforme de marque qui fait le lien, mais Blend, ils vendent des burgers. Et en fait, notre job, c'est de l'aider à en vendre plus, quelque part, si on synthétise. Alors, bah, c'est comment il trouve son audience, comment il les fédère, comment, plutôt qu'aller chez Big Fernand, tu vas chez Blend ou Five Guys, quand tu as envie d'un burger. Mmh. Et ça, ça a les mêmes réflexes que quand tu as envie de t'offrir une paire de chaussures ou quand tu veux t'offrir un t-shirt. Et c'est ça qui relie tout. Donc ouais, c'est dangereux. Enfin, en tout cas, c'est quand je dis dangereux, non, c'est. Enfin, je pense pas qu'on puisse dire dangereux. On peut dire que c'est pas à chaque fois la même chose. C'est pas tout le temps les mêmes ingrédients, mais il y en a quand même beaucoup. Et le premier étant ce fameux client, en fait, mm-hmm. qu'il faut séduire et fédérer, lui raconter des belles histoires. Et ça, voilà. C'est tout à l'heure j'évoquais Apple et le frigo. Je vais pas dire que demain Blend va faire de la mode. Mais ça serait un peu, ça serait lui rendre un bel hommage de comparer Blend à Apple, bien évidemment. Mais bon, tu peux tendre à ça en tout cas. Mm-hmm. Tu peux tendre à avoir envie de te dire si j'arrive à accrocher des gens sur ma marque et qu'elle est complète. Ben, on peut prendre l'exemple de Rouge que tu connais certainement. Ils ont commencé par la mode, ils lancent de la beauté. En fait, le lien c'est quoi? C'est qu'il y a un élément fort au milieu, c'est qu'il y a que les clients ou clientes peut-être là dans le cas précis. Bah, elles ont envie d'acheter cet univers global. Mmh. Et ça, moi, j'y crois beaucoup. Je crois beaucoup à ces marques qui vont commencer un peu à se balader dans. Alors, ce sera avec des. Historiquement, c'était avec des collabs. Mmh. En fait, on se rend compte que les marques, elles peuvent aussi le prendre en interne mmh. et le faire toutes seules. Et ça, c'est hyper intéressant.
Ça, c'est cool. Bon, on arrive un petit peu à la fin, mais j'ai encore quelques questions.
J'ai tout mon temps.
Ouais. Bon. 1h15, ça va. Moi, j'ai ma petite marotte en ce moment, c'est la sustainability. C'est un vrai sujet sur toutes ces industries-là. Et ces modèles aussi, hein, ce modèle capitaliste qui est de grossir tout le temps. C'est quoi ton point de vue par rapport à ça? Comment est-ce que les fondateurs doivent l'aborder? Si demain, tu montes une boîte, dans quelle mesure il faut le prendre en compte, etc. etc.
Je vais... J'ai pas envie d'être taxé de plagiat, donc je vais le préciser. Charlotte Dereux de Patine le dit très bien. Mm. Et je suis hyper d'accord avec elle. Pour moi, c'est être sustainable. Alors, je sais pas exactement tout ce qu'on peut mettre dedans et je suis moi-même pas le meilleur client. Mais c'est la nouvelle norme. Donc, si demain tu crées une marque et que tu l'es pas, je pense qu'en fait, on revient aux clients. Les clients ne te voudront pas. Mm. J'ai des enfants jeunes. J'ai notamment un fils qui est assez dynamique et qui est à l'écoute de plein de trucs. Il a 5 ans. Il m'a forcé à acheter une deuxième poubelle et une troisième pour trier les déchets.
Il a 5 ans ?
Mm-hmm. Il a dû voir ça chez un de ses potes ou j'en sais rien, ou peut-être sa maîtresse lui a dit. En fait, lui, il a 5 ans. Dans 10 ans, il va acheter des produits. Et ça sera dans sa tête. Donc, c'est effectivement la nouvelle norme. Après, comme le dit Charlotte, il ne faut pas le faire de façon chiante. Et il faut être... Faut être humble, on peut pas tout faire parfaitement. Donc on fait tout au max. Mais on peut pas faire tout encore parfaitement. Je me rattache à la techno, j'espère que la techno aidera à rendre des marques peut-être parfaites. Mais en tout cas, il faut avoir cette ambition-là parce que c'est une norme. On en a parlé à l'occasion d'une journée hyper sympa en fin d'année dernière animée par le R3i Lab dans lequel j'ai été partie prenante. On a parlé des évolutions du secteur en 2030 de la mode. Bah ouais, l'un des thèmes c'était ça. Mais oh, j'ai d'ailleurs fait intervenir Charlotte à Bercy, c'était hyper sympa. Mmh. C'est normal en fait d'être comme ça. Parce que les clients, et je pense qu'on doit tous être conscients de ça, les clients le veulent. Les clients c'est mon fils, c'est toi, c'est tes potes, enfin... On a tous conscience maintenant que l'industrie, effectivement, elle est pas très propre, elle fait des trucs pas cool et qu'il faut être vigilant. Après, encore une fois, quand tu es une jeune marque, ce que je connais mieux, je connais pas les grosses, je sais pas ce qu'elles veulent, ce qu'elles ont en tête. les jeunes, elles se disent ouais, c'est en fait on n'a pas le choix que de jouer le jeu. Et c'est ça, c'est un des, t'as raison que ce soit ta marade, parce que c'est évidemment l'un des gros sujets. C'est encore une fois, moi je pense qu'il faut l'appréhender. Faut pas faire du greenwashing ou être
nature.
Voilà.
Ou être donneur de leçons, etc.
Et donc ça, c'est un point capital. Et, et nous, c'est un des points qu'on regardera, bien évidemment. Une marque qui nous dit non, moi je m'en fiche, ça va alerter un petit truc dans notre tête. On va dire oula, mince, c'est peut-être.
Pas compris un truc.
C'est rare.
Et qu'est-ce que tu ferais différemment, toi, là, sur tout ton parcours jusqu'à présent?
Oh, bah, certainement beaucoup moins de conneries, parce que j'en ai fait plein. Qu'est-ce que je ferais différemment? Alors, je lirais plus.
Ouais. Tu lirais quoi?
J'écoute, effectivement, je lirais plus. Je vais te raconter une des dernières anecdotes. Quand j'ai décidé de partir à Dubaï, en fait, c'est pas vraiment qui a décidé, c'est la banque qui m'a dit, toi, on va t'envoyer à Dubaï plutôt qu'à Londres, parce qu'il y avait les deux options. Il y a un mec qui est venu me voir, un des patrons de l'équipe, il m'a dit, tu choisis encore la facilité, toi. Je lui ai dit, t'es fou, à Dubaï, c'est quand même pas facile d'aller à Dubaï, c'est plus exotique que Londres, quand même. Il me dit, ouais, mais tu choisis la facilité, tu vas être dans une équipe de deux, avec un mec, en l'occurrence, David Nataf, extraordinaire, qu'il connaissait bien. Il va te prendre avec lui partout, en marketing, en présentation d'opportunités, et donc tu vas pas aller dans le dur. À Londres, t'aurais été dans une équipe d'analyse de 200, t'aurais fait que du Excel pendant 3 ans, et on t'aurait déformé pour que tu sois la star de Excel. Il me dit, donc tu choisis la facilité. Je dis, non, je l'avais pas écouté, donc je suis allé à Dubaï, et il avait raison, j'ai choisi la facilité parce que j'allais dans ma zone de confort, raconter des histoires, aller rencontrer des clients, mais j'étais tout jeune, il me manquait peut-être un bout technique. Peut-être que je l'aurais du coup fait différemment. Je le regrette vraiment pas, parce que
t'as peut-être dû prendre du bon temps, surtout à Dubaï, non?
Non, mais c'est vrai que le métier était, l'approche était différente. Tu vois, je t'ai raconté cette anecdote de carte de visite, mais il m'a dit, voilà, on est deux à faire une équipe, on avait une ambition, on devait faire beaucoup de deals, on devait faire des gros honoraires pour que ça continue. Il me dit, on est deux, donc j'ai pas le choix, mec, tu vas être à côté de moi et tu vas m'aider à faire, et tu vas pas être juste être un analyste financier que je peux pas sortir de la cave.
Ouais, mais ça t'a fait grandir beaucoup plus vite, en fait.
Bah, ça m'a fait, ouais. Après, le sujet, c'est que quand je suis revenu en Europe, à Paris, pour retrouver ma femme, enfin, qui n'est pas encore ma femme, mais qui l'est devenue, bah, je me suis confronté à des mecs qui avaient le même âge que moi, et donc techniquement la même carte de visite et le même niveau, et ils étaient envoyés 5 ans d'Excel. Et moi, j'arrive, je peux pas faire un peu comme d'habitude, en fait, comme je faisais à Dubaï. Ah bah non, ici à Paris, c'est différent. Et donc, c'est un point d'accroche un peu complexe pour moi à gérer. Alors, j'ai réussi à le gérer, mais oui, ça a été la solution de facilité. Donc, est-ce que avec le recul, je l'aurais pas fait différemment, parce que j'ai passé des moments canons à Dubaï, j'ai appris énormément grâce à ce mec. Et donc, non, je ne le ferai pas différemment. Là, on prend un chemin que j'adore. Donc, je n'ai pas envie de dire que j'aurais fait différemment. Je me dis, j'ai fait plein de bêtises. Donc, si j'avais une baguette magique, j'en ferais moins. Alors, c'est sûr. Mais ce que je trouve... Là, le chemin qu'on est en train de prendre, la tournure que prend Mothers, on lance donc le premier fonds d'investissement tokenisé dans les industries créatives.
Ça veut dire quoi, tokenisé?
On s'appuie sur la techno blockchain pour en fait faire faciliter le fonctionnement du fonds d'investissement. Et de façon très 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 simple, un investisseur qui nous donne un euro, au lieu d'avoir une action papier, il y a une action digitale qui est un token, et ce token qui partagera la valeur à terme. Donc c'est juste technologiquement, mais à la fin on fait exactement la même chose, mais ça rend quand même le schéma très très excitant, parce que personne ne connaît encore, très peu de gens connaissent, mais la structure même de ce fonds est canon. Et nous, notre token a la même fonction qu'une action d'un fonds classique. Une action papier, là, elle est digitale. Mais ça veut dire qu'on peut parler à énormément de monde en même temps. On peut traiter, parce que la techno le permet, on peut avoir des investisseurs partout dans le monde et pas avoir à faire un virement à la main à chaque fois qu'on aura gagné un euro. Là, c'est la techno qui le fera de façon automatique. Donc, ça nous permet de scaler très fort grâce à ça. Et c'est hyper excitant. Mais comme tu l'évoques, il y a encore de la méconnaissance. Alors, on pourrait en parler 3 heures, hein, donc je peux m'arrêter là si tu le souhaites. Mais c'est hyper excitant. Donc, on prend un virage qu'on adore. Ça fait à peu près 1 an et demi qu'on bosse sur la structuration de cette approche. Ça vient de sortir il y a quelques semaines. On a convaincu nos premiers actionnaires. On va commencer à déployer. Le truc génial, c'est... en fait, ce token, c'est nous qui l'avons créé. Donc, tu émets ton propre token, donc tu émets le nombre que tu en veux, et donc on en a aussi beaucoup pour en donner à des influenceurs qui sont les fameux clients. Et donc, on associe dès le premier jour les clients futurs des marques sans que les marques aient besoin de le payer. Et ça, on peut le faire grâce à cette tokenisation de l'industrie. Donc, les tokens, on en donne à certaines personnes, des influenceurs, ça peut être n'importe qui, là, pour le coup, ça peut être des petits comme des gros. Et on leur dit, une fois qu'on sera actionnaire de la marque X, si tu fais des choses pour cette marque, ça peut être un post Instagram, ça peut être ce que tu veux, bah ça fera du bien à ce token, ça fera du bien à la marque, en fait. Et si ça fait du bien à la marque, ça fera du bien au cours de ce token. Mmh. Et donc, c'est assez vertueux. Et les marques trouvent ça... Alors là, on a commencé à en parler à quelques marques, elles trouvent ça assez sympa, parce qu'elles se disent, ah bah, je vais m'acheter, en fait, en acceptant d'avoir Mothers comme actionnaire, en plus de l'argent, de l'equity qu'ils nous donneront. On a aussi ce protocole d'influence complètement différent qui peut être un complément à ce qu'on fait nous de façon classique pour, avec, alors là on va parler d'Instagram, des influenceurs Instagram aujourd'hui, mais ça sera un complément.
Ça c'est vraiment nouveau non sur le...
Ouais, dans ce moment. Ouais, ça je peux pas te cacher. Alors on organise une soirée le 20 février et je t'invite bien évidemment à un peu d'éducation dans nos bureaux. On va faire une... Alors Blend sera le fournisseur officiel du Token Burger, donc il y aura des burgers sympas. Et on va en parler ce soir-là pour commencer un peu à éduquer. Alors, c'est aussi bien des investisseurs que des marques. Mais ouais, ça, c'est complètement nouveau. C'est complètement nouveau. Ça existe dans d'autres secteurs, encore une fois. Le cofondateur d'Apple a lancé un fonds tokenisé aux US, mais qui investit uniquement dans des marques techno, des startups tech. Nous, ça, on fait la même chose, mais dans le secteur qu'on connaît, en fait. Et donc, c'est hyper excitant. C'est levé. On lève de l'argent pour ça. On a déjà commencé à le faire. On est très content de ce qui s'est passé au mois de décembre et là, depuis les débuts janvier. Et ça va nous donner un outil qui sera complètement différent. Ouais. Là, les marques, elles vont se retrouver vraiment dans la façon dont on appréhendait l'ensemble du projet.
Et vos investisseurs, c'est qui? C'est que là, des gros ou ça peut être n'importe qui?
C'est ça qui est génial. En fait, si tu lèves un fonds,
ouais.
Et pardon, hein, je veux pas dire du mal parce que c'est pas du tout ma... Mais là, s'il y avait une caméra, t'as des baskets toi aussi. Tu vois, on a des baskets. J'ai pas complètement, et à un moment, j'ai pas complètement les codes institutionnels pour lever un véhicule classique.
Ouais.
En fait, normalement, quand tu te dis je vais lever un fonds, tu parles à des tickets, des gros tickets. Tu cherches à lever beaucoup d'argent avec des gros tickets très institutionnels. Et oui, ils vont chercher le track record. Ben, on l'a pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? On attend. Et moi, je suis impatient. Donc, j'ai besoin
de chercher de l'argent ailleurs.
Donc, en fait, l'argent ailleurs, on s'est dit, et c'est ce fameux intelligence collective. Je parlais de My Major Company, tout ça se revient. Mais
ouais.
En fait, pour moi, le ticket minimum, alors je ne veux pas parler trop d'argent ici, mais le ticket minimum pour investir dans notre fonds, c'est 10 000 $. Ça ouvre beaucoup, beaucoup, beaucoup de perspectives. Et donc, je trouve ça génial que de me dire, parce qu'en fait, quand tu rationalises les choses, mettre 10 000 $ dans un fonds, déjà, ça te permet, toi, potentiellement, de dire, ah bah, je m'achète, j'ai accès à un produit financier structuré, complexe, pour 10 000. Normalement, tu ne l'as pas. Si tu n'as pas 500 000, tu ne joues pas, en fait, tu ne vas pas investir dans un fonds d'investissement pour 10 000. Donc, nous, ça ouvre effectivement ça. Et ça, je trouve ça hyper excitant, parce que pour moi, mettre 10 000 $, c'est juste une problématique d'échelle. Mettre 10 000 $ pour quelqu'un, c'est la même prise de risque que quelqu'un qui met 1 million, mais qui en a beaucoup plus, en fait. Et je trouve ça j'adore. Et donc, on parle à beaucoup de monde. C'est pour ça qu'on fait une soirée aussi où on va prendre la parole devant des gens qui potentiellement ont une surface financière leur permettant de prendre ce risque et de s'acheter cette aventure en disant bah, je vais être, plutôt que mettre 10 millions dans une marque, bah, je vais mettre 10 millions dans un portefeuille de marque. Et en plus, bah, j'ai un token qui me fait que si je le garde, ce token, ça peut s'apprécier de façon très, très sympa.
Trop bien.
Donc, c'est hyper excitant. Et moi, la question, c'est est-ce que je ferais différemment? Tout ce que j'ai fait m'a amené là. Toutes les erreurs, et c'est ça qui est génial aussi, peut-être, toutes les erreurs que j'ai faites m'ont amené à être en face de toi et te dire qu'on est en train de lancer un truc que je trouve canon. Donc, en fait, je ferais peut-être moins de grosses erreurs, mais peut-être que je les ferais quand même pour arriver au même point. Maintenant, il faut que ça marche, mais ça, c'est hyper excitant.
Moi, j'ai encore quelques questions. Qu'est-ce que tu conseilles comme bouquin à tes fondateurs sur tout ce qui est... Comment tu t'es formé, toi, au branding, etc.? Parce que tu restes un financier.
Non, ouais, moi, je me suis formé sur le tas. Hein.
Ouais.
sur le tas, à regarder, à être, avoir un peu cette culture. Après, je me forme aussi au quotidien grâce à mon équipe.
Ouais.
Hein. C'est une star. Hein. Elle, en branding, elle a un truc, quoi. Ouais. Et donc, je me nourris beaucoup de ça.
Ouais.
Je peux pas te répondre. J'ai pas de livre.
Ouais, t'as pas une liste
si
à recommander.
Si mon épouse était là, elle te dirait, il y a deux seuls livres que j'ai lus. Et franchement, tout le monde se foutrait un peu de moi parce que c'est pas très noble. Donc, non, je lis peu. Après, je suis curieux. Ça, c'est sûr.
Ça, c'est bien, ça.
Et je suis curieux de mon. Voilà, quand Léna découvre une boîte et elle me dit cette marque est canon, je lui dis mais vas-y, explique-moi pourquoi, qu'est-ce qu'elle a de canon. Et ça me nourrit au quotidien. Ouais.
Ouais, ouais. Alors, je ne sais pas si tu veux rajouter des choses, mais je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça fait déjà 1h30. Tu veux rajouter des choses?
Non, bah, te remercier, ça c'est ouais. Sûr. Vraiment, c'était un moment hyper sympa. J'espère que ton audience ira jusqu'au bout. Je vous invite tous, si vous le souhaitez, à venir. Enfin, ils pourront.
Le 20 février, alors.
Le 20 février.
Il faudra que je sorte l'épisode avant le 20 février.
Si tu veux, bien évidemment. Mais ouais, volontiers. La porte sera grande ouverte. Il y aura des bons burgers, effectivement. Parfait. Et de la bière aussi. Ouais. Burger and beer, c'est le thème.
D'accord.
Et on a envie de faire ça de façon très ouverte pour que démocratiser un petit peu ce monde. Mmh. Et c'est aussi pour ça que j'avais volontiers accepté d'en parler aujourd'hui avec toi, parce que on n'a pas une approche élitiste de l'investissement. On est
ouvert à tout le monde.
On est très ouvert, en fait. On est aussi bien ouvert sur les marques que sur l'ensemble.
D'ailleurs,
du
chemin. Si des entrepreneurs nous écoutent, comment ils font pour te présenter un projet? Comment on fait pour bosser pour toi? Et comment on fait pour investir chez toi?
Alors, tout ça se passe online. Mothers.paris.
Ok.
Et là, alors aujourd'hui, c'est plutôt focus sur la partie investissement parce qu'on fait en étapes. Mais ouais, l'idée, c'est que McDo dit venez comme vous êtes. Et peut-être que je conclurai là-dessus. En fait, j'ai imposé à mon équipe de travailler comme ça. Je veux que l'entrepreneur, parce qu'on a ce fameux algorithme, hein, je m'appuie aussi là-dessus. Mais demain, quand le site de Mothers, la V2 va sortir dans quelques temps, quand la levée de fonds sera terminée, bah, les entrepreneurs, ils pourront venir comme ils sont. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas de grille et une critère fermé à l'entrée. Il y a beaucoup de fonds qui digitalisent leur process. Ils te font un type form où tu dois remplir pendant 2 heures des documents que tu ne sais même pas où les trouver. Moi, je leur demanderai juste leur site e-commerce. Et grâce à ça, je saurai, grâce à la data, grâce à l'intelligence artificielle, je saurai savoir si j'ai besoin de les rencontrer ou pas. Après, je déciderai ou pas. Mais donc, ils pourront juste jeter leur. Donc, le point d'entrée, ce sera juste ça. C'est eux. Moi, je veux que ça soit focus sur eux, pas sur mes critères à moi, sur ce qu'ils ont eux à l'intérieur de leur boîte. Et on a fabriqué la digitalisation, notre sourcing, dans l'autre sens. Pas dans le sens je suis le fond, remplis-moi des critères. C'est l'inverse.
On s'adapte.
T'es la marque, tu me donnes ce que t'as. Et je vois si ça a du potentiel. Mais ça va aller parler de la marque comme de la performance, comme de l'équipe, etc. Et ça, c'est... Donc, la conclusion, c'est les marques, elles pourront juste nous dire « Hello, on est là !» Et nous, on sera ravis de les accueillir et de leur parler. Même si, selon eux, les critères ne sont pas encore au rendez-vous.
Très bien. Et dernière question que je pose toujours à mes invités, c'est « Qui souhaiterais-tu entendre dans ce podcast ?»
Alors, je ne veux pas faire... J'ai plein de petites idées. J'aimerais bien, si tu peux, interviewer, inviter des institutionnels. Je sais que là, alors dans nos bureaux, il y a le chef du digital de LVMH, Ian Rogers, qui est un mec passionnant, qui est hyper intéressant à écouter, je pense, qui est plutôt accessible. Pourtant, il a un job sympa. Ça serait hyper intéressant d'avoir ce genre-là. Et en marque, t'as déjà... Moi, en ce moment, mon petit coup de cœur, tu l'as compris, je pense, j'en ai parlé beaucoup, c'est sur Patine. Donc, je crois que tu l'as déjà interviewé.
Ouais, j'ai déjà interviewé Charlotte. Ouais.
Donc, clairement, bravo, parce que ça aurait été une bonne idée. Voilà, après, ma petite question, c'est est-ce qu'entreprendre dans la mode, pour toi, c'est uniquement la mode textile? Nous, on a appris à englober plus de choses.
Ah, pour moi, entreprendre la mode, c'est le lifestyle. Hein. Je parle à tout le monde.
Ouais, Victor de chez Blend est canon. Hein. Après, je ne veux pas dire que les marques qu'on accompagne, mais Victor de chez Blend est canon. Moi, j'aime beaucoup aussi, et je te ferai un mail à toi si ça t'intéresse. Il y a un garçon que j'aime beaucoup, qui est Lucien Pagès.
Bah, je l'ai interviewé, Lucien.
Ah, tu l'as eu, bah voilà. Ouais. Bah, alors, tu vois, j'ai pas été jusqu'au bout de tout. Bah, Lucien, voilà, ça va être.
Lucien.
Je trouve que c'est un mec canon, j'étais encore avec lui hier, il nous aide beaucoup, on travaille beaucoup avec lui.
Ah, pour, vous bossez vachement avec lui, c'est vachement intéressant.
Pour nous, même, ouais. Et c'est un mec génial. C'est un mec que je trouve très volontaire, très bienveillant et qui a une vision qui est très intéressante du monde lifestyle mode avec des marques canons qui l'accompagnent.
Mais il va falloir que je change de nom alors. Entreprendre dans le lifestyle.
Non, ouais, ou dans les marques, je sais pas. Mais bon, en tout cas. Puis après, ouais, non. Je rêverais d'entendre Emily Weiss. Je sais pas si on peut parler en anglais. Mais,
Ouais, mais je fais. Maintenant, je fais des épisodes en anglais aussi parce que j'ai envie de
m'ouvrir.
Ça serait
génial d'avoir quelqu'un comme elle.
Emily Weiss, ouais.
Voilà.
Carrément. Cool. Bon, bah écoute, merci. Et puis, bonne chance
toi,
pour la suite. À bientôt.
À très vite.
Salut.
Merci d'avoir écouté Entreprendre dans la mode. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à laisser un message aux invités directement sur leurs réseaux sociaux pour les remercier de leurs bons conseils et de leur générosité. C'est très important pour montrer que Entreprendre dans la mode est vraiment écouté. Tout aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcast ou iTunes, 5 étoiles de préférence, car ça permet à Entreprendre dans la mode de rester en haut du classement et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Et surtout, ça me motive à faire de meilleures interviews. Il n'y a pas de pub sur ce podcast. Entreprendre dans la mode est financé par ses auditeurs sur patreon.com. Vous pouvez vous aussi rejoindre cette communauté et soutenir Entreprendre dans la mode à partir de 2€ par mois en allant sur patreon.com/entreprendre-dans-la-mode. Le lien est dans la description de l'épisode. Enfin, pour ne rien rater de l'actualité de Entreprendre dans la mode, vous pouvez me suivre sur Instagram en cherchant Entreprendre dans la mode. Merci de soutenir ce podcast et à mardi prochain pour un nouvel épisode.